patient avait la chance, même si peu de fermiers se seraient risqués à employer ce terme, de posséder 3 parcelles.
Bonjour, bonsoir et bienvenue dans cet épisode numéro 36 à peu près du Roi Steven. Avec moi autour de cette table virtuelle, il y a Grand Poil.
Bonsoir.
Julien.
Salut.
Émilie.
Bonjour.
Urde.
Bonsoir, bonjour.
Et vous venez de l'entendre, Aymeric.
Bonjour.
Bonsoir. Dans une fête foraine.
Exactement.
Bonjour mardi. Première sensation.
Bienvenue à tout le monde. Comment allez-vous ce soir?
Je peux le faire longtemps.
Ben, ça va bien, Pomme, et toi? Tu vas bien?
Ça va, j'ai chaud.
Ouais. On va pas se plaindre, on a enfin chaud.
Ouais, c'est ça. Et moi, dans ça deux semaines, faire ouin-ouin, il fait trop chaud.
Non, moi, j'ai commencé hier à faire ouin-ouin, il fait trop chaud. Mais moi, je me plaignais pas, par contre, quand il faisait 12 degrés la semaine dernière. Bien. On va pas tarder à commencer. Mais d'abord, je vais faire comme la dernière fois. Je vais profiter d'avoir le micro pour dire des trucs.
C'est ça, le
connaissez-vous... C'est... Non, c'est plutôt bien, ça te concerne. Connaissez-vous la réponse D?
Oui.
Ah bon? Mais non, mais qu'est-ce que c'est?
Ah, mais merci de poser la question. La réponse D, c'est le nouveau podcast du label Podcut. Tous les matins, retrouvez-nous pour 5 minutes de culture générale sur des sujets de niche.
Ça va parler de chiens?
Ça ne parlera pas de chiens.
Pas pour le moment.
Ça pourrait.
Non.
Ça pourrait, peut-être un jour, mais pas pour l'instant.
Je crois qu'il y a un épisode où on mange des pieds d'éléphant.
Oui, ça va parler de...
Oui, c'est ça. Oui.
Ça va parler de manger des éléphants. Absolument. Et
ça, d'aime
tous les matins, vous pourrez vous réveiller avec la douce voix de Grand Poil.
Bonsoir.
Grand Poil. Grand Poil qui pose des questions. Il veut savoir des choses.
Mais d'abord, voici la question.
Vous avez choisi la réponse D. Mais d'abord, écoutez la question.
Voilà, c'est parfait. Tous les matins, vous aurez ça. Donc, abonnez-vous au flux La Réponse D de Podcut. Et comme ça, voilà, vous apprendrez plein de trucs. Ça va? J'ai bien fait la pub.
Oui, parfait. C'était très bien.
On peut en profiter pour rappeler que Podcut est un label. Non, on fera ça à la fin.
On fera ça à la fin. Rejoignez-nous sur le Discord.
D'abord, nous allons parler de Sophia Cecilia Kalogeropoulos, dite Maria Callas ou La Callas,
qui
est cantatrice grecque, née le 2 décembre 1923 à New York et morte le 16 septembre 1977 à Paris.
Oui.
Surnommée la Bible de l'opéra par Leonard Bernstein, La Callas, telle qu'elle est couramment appelée, a bouleversé l'art lyrique du XXe siècle en valorisant l'approche du jeu d'acteur, jusqu'alors relégué au second plan. Elle aimait beaucoup se mettre des petits masques noirs, appelés aussi loups. Les fameux loups de la Callas.
Oh, la vache, la belle pirouette.
Bravo. Oh non, mais magnifique. Bravo. Ah ouais, félicitations.
Et oui, comme vous l'aurez deviné, nous allons parler du tome 5 de La Tour Sombre, les loups de la Callas, sorti aux États-Unis en novembre 2003 et en France en septembre 2004, écrit sous le nom de Stivou. Enfin, Stephen King, traduit
Stephen King.
Stephen King.
Pardon.
Ça commence à faire des gros mélanges, là.
Traduit en français par Marie de Prémonville. Alors, au nombre de pages, j'ai pris les données de Wikipédia. Ah, donc, l'édition de J'ai lu, 668 pages. L'édition américaine de Grant, 714 pages. Je pense qu'ils ont imprimé plus gros, parce que normalement, l'anglais, c'est plus court, c'est plus concis. Et parce que le livre audio français dure un peu plus de 32 heures et le livre audio américain dure un peu plus de 26 heures.
Julien est déjà en souffrance.
Bah, ça s'écoute vite.
On a un ratio de 1 pour 10.
Mais en 1,5.
Et le résumé en une minute, eh ben c'est simple, vous l'avez aimé, il revient, Salem 2, le retour de la vengeance du père Callahan.
Ouais, ça.
Lol. Bien.
Ça commence à sentir un peu les embruns, là, tu vois.
Les suites, c'est souvent pas ce qu'on attend.
La marée monte.
comme disait Renaud, c'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé? Et je vais tirer au hasard en demandant à Urd.
Eh ben, comme tu l'as dit, moi j'étais contente de retrouver le cathète et plus particulièrement Callahan. Donc pour l'instant, ça me plaît parce que je sais plus si on l'a dit qu'on faisait partie seulement.
C'est que la première partie.
Voilà.
La première pas la première partie.
Oui, moitié.
Ouais. La première moitié. Donc globalement, ça va. Un petit peu long comme d'habitude, mais franchement, ça passe. Donc j'ai hâte de voir la suite.
Grand poil.
J'adore ce début. Voilà. Le début est vraiment très très bien. Il y a une ambiance western que je kiffe. On se croirait dans les comment ça s'appelle, c'est les sept mercenaires. J'ai un doute.
Les 12 salopards. Western.
Les
12 salopards. Donc ouais, ça, il y a l'ambiance full western de la du cathète qui arrive dans une petite ville qui va avoir plein de problèmes et on sait d'avance, donc ils vont devoir la défendre et retrouver le père Callahan, ça fait super plaisir, mais pas pour lui parce que il prend cher. Hein.
Oui, il a pas une vie rose. Est-ce que je demande directement à Pomme ou est-ce que j'attends la fin?
Non, tu demandes jamais.
J'ai des choses à dire.
Ok, hein. Alors je vais faire semblant de l'oublier. Émilie, tu l'as relu ou pas?
Oui, je relis toute la Tour Sombre. Moi, j'étais super contente de retrouver le cathète parce que le 4, la partie que j'ai préférée du 4, c'est les 150 dernières pages quand on reprend les aventures du cathète. Mmh. Et je savais que dans le 5, on reprenait les aventures du cathète malgré ce flashback qui plaira ou qui plaira pas. Ça, on aura le temps d'en débattre. Et j'adore, c'est trop bien. Il se passe plein de trucs. On est vraiment immergé dans l'univers. J'ai du mal quand je me motive à lire, j'ai du mal à le reposer après. J'ai vraiment hâte qu'on avance dessus.
Ok, Julien, qu'est-ce que tu as pensé de ce livre? De cette première moitié de livre.
On va dire que le 4 m'avait laissé une telle bonne impression que j'aurais préféré aller voir un urologue que le relire. J'étais pas très motivé à commencer le 5 en fait, parce que moi je savais pas ce qui se passait. Et je crois que je l'ai défoncé en 3 jours, la première.
Parce que tu l'as commencé tard, hein.
Ouais, je l'ai commencé tard. Ah, et là, oui. J'en suis à 70%.
Il y a 3 jours.
Non, je l'ai fini. Enfin, j'avais fini la partie qu'il fallait finir il y a 2 jours. Et ouais, je l'ai commencé une semaine avant l'épisode. Et j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé, effectivement, ce nouveau décor. Très western. Western slash... je sais pas comment on pourrait dire, pas Amish, mais c'est fin 19e siècle, grosso merdo.
Dr. Quinn, c'est un western Dr. Quinn.
Ouais, c'est ça, avec un robot.
Ah oui.
Pourquoi pas.
Ah oui.
Et
c'est les aventures de Briscoe County Jr.
Oui, oui.
Avec Bruce Campbell.
J'ai pas la ref non plus. Et
une
surtout,
une série télé avec des westerns avec de la technologie avancée à certains moments.
Ah.
Et j'ai bien aimé parce que moi je l'ai pas trouvé trop long. Je trouve que c'était bien équilibré entre faire avancer l'histoire au temps présent et revenir en arrière entre guillemets, surtout avec Callahan. Je suis pas sûr qu'il y ait d'autres trucs où on revienne en arrière, sauf lui. Mais non, c'était bien. C'était vraiment bien.
Et enfin, Pomme.
Alors.
Qu'est-ce que tu en...
On t'attend. Hein. On t'attend avec impatience.
Alors, j'ai adoré le début du bouquin. J'étais trop contente qu'il se passe enfin des choses. L'aspect western, Dr. Quinn, machin, trop bien. On a commencé à partir... en fait, je me suis rendu compte qu'à cause du 4, l'histoire de l'avancée du cathète vers la Tour Sombre, j'ai décroché, je m'en fous. Enfin, c'est pas que je m'en fous, mais je suis plus autant à fond dedans que dans le tome 3. Et en fait, jusqu'à ce qu'on arrive à Callahan, je me disais que j'avais envie de lire un peu comme on lit... une BD de Lucky Luke. C'est-à-dire que à chaque BD de Lucky Luke, en fait, on s'en fout de l'histoire de fond de Lucky Luke. Ce qui nous intéresse, c'est la nouvelle aventure qui va se passer. Donc là, j'avais envie de savoir les loups de la Cala, c'est quoi cette histoire, l'histoire des jumeaux, machin. J'avais envie qu'on avance dans vraiment l'histoire du bouquin. Il y a quelques voyages vadaches où on avance dans l'histoire du cathète. Bon, c'est normal. Et là est arrivée l'histoire de Callahan qui m'a saoulée. Et... j'ai réfléchi à ta question, Émilie, parce que tu m'as demandé si j'avais pas eu à prendre des notes, qu'est-ce que j'en aurais pensé. Et en fait, Toute cette... En fait, je l'ai écouté, ce coup-là, le bouquin. Je l'ai d'abord écouté, et après, j'ai relu pour prendre des notes. Et même en l'écoutant, quand j'étais à un moment où j'avais pas à prendre de notes, où j'étais tranquille à l'écouter, vraiment, le passage de Callahan m'a gonflé.
Pourquoi ?
Parce que j'avais pas... Enfin, pour l'instant, alors peut-être que je comprendrai plus tard pourquoi il a fait ça, mais pour l'instant, je vois pas l'intérêt d'être revenu en arrière, à part nous faire un truc, un peu comme il a fait pour l'adaptation du fléau, genre, ah, j'ai pensé à une autre fin, et je vais la caler quelque part, parce que j'ai oublié de la développer dans le bouquin qu'on a passé.
Voilà.
Et vraiment, cette partie-là, alors peut-être que plus tard dans le bouquin, je vais me dire, ah ben oui, ben c'était pour ça, et du coup, ça valait le coup. Pour l'instant, là où j'en suis, à la moitié, je me suis arrêté quasiment là où on devait, juste, elle me fait chier, cette partie. Alors que, si ça avait été une nouvelle comme Les Petites Sœurs d'Eluria, par exemple, ben peut-être ça m'aurait intéressé de savoir ce qu'il était devenu, ce personnage. Mais à ce moment-là, j'en avais rien à foutre.
T'avais aimé Salem ou pas ?
Ouais, ça va. C'est juste là, à ce moment-là, que je...
Ouais, tu trouves que c'était mal, enfin, que ça ne va pas avec le reste de l'histoire.
Figurez-vous que moi aussi, je me suis demandé toi, pourquoi Aymeric. Est-ce qu'il a pas fait un bouquin à côté avec les aventures ? Parce que je me suis dit, à la fois, il en raconte énormément, et à la fois, il passe sur des trucs, et je me suis dit, mais je pense qu'il avait la matière pour faire au moins une novella.
Ben, je suis d'accord.
Avec ça. Et ça lui aurait permis d'alléger un peu les loups de la Cala, tout en ayant un truc publié à côté, donc double.
Ouais, mais il
aurait
fallu qu'il fasse soit un spin-off, soit qu'il sorte les lecteurs de l'histoire en cours pour pouvoir raconter l'histoire de Callahan.
Ben non, il aurait pu résumer un peu plus l'histoire de Callahan, puisque de toute façon, il y a des liens entre la Tour Sombre et les autres romans. Mm. Il aurait pu carrément faire une histoire carrément à part pour mieux détailler la vie du père Callahan qui est complètement qui a des aventures assez folles.
Ouais.
Et en fait, je suis frustré parce que à la fois ça parasite les loups de la Cala et à la fois j'ai envie d'en apprendre plus sur ce qu'il a vécu.
Je suis absolument d'accord avec Aymeric. Tout pareil.
Donc, je trouve qu'il y a un peu du gâchis. Dans
il en dit
ça.
Trop ou pas assez.
Mais sinon très, 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 très je suis, enfin, j'ai vraiment accroché au début de l'histoire. J'arrivais pas à arrêter la lecture du livre audio. J'ai même dépassé, allègrement la moitié quand j'y suis arrivé. Je me suis même pas rendu compte que j'avais écouté 2 ou 3 heures de plus.
Je trouve dur avec l'histoire de Callahan parce que, pour le coup, elle est pas spin-off que ça, quoi. Enfin, il y a quand même pas mal de trucs où on t'explique l'univers, les autoroutes et tout, là.
Oui, mais comme je dis, je trouve qu'il en dit à la fois trop par rapport au fait d'avancer l'histoire du Cathète et de la Tour Sombre, et pas assez par rapport à ce que j'ai envie d'apprendre sur les aventures du père Callahan.
Et puis...
Ça sera intéressant d'en reparler, de bien enregistrer ce qu'on est en train de se dire là et de voir ce qui se passe dans la deuxième partie et d'en reparler le mois prochain. Mmh. Voir ça a servi le récit ou pas. Parce qu'en fait, c'est surtout ça. C'est que là, au stade où vous en êtes de la lecture, pour vous, ça sert à rien, quoi.
Moi, clairement, si ça avait pas été pour le podcast, j'aurais posé le bouquin au moment de Callahan. Le reste, je l'ai avancé super vite et ce moment-là, et vraiment, j'ai dû me foutre un coup de pied au cul pour reprendre le bouquin et reprendre le truc. Vraiment, ça me...
Okay.
Ça casse un peu le rythme. On est d'accord.
Oui, mais c'est le principe de la Tour Sombre.
J'ai eu un tome spin-off avant, tu vois, t'arrives à ce spin-off-là où tu dis, stop, là,
ouais,
ça
mais
va.
Julien, t'as vu ce que ça donnait sur le tome 4.
Oui, d'accord. Oui, mais c'est le principe de la Tour Sombre, les mecs qui s'assoient autour du feu et qui palabrent pendant 3 heures. Sinon, ce serait pas la Tour Sombre.
Faux.
Puis en plus...
La Tour Sombre, faudrait peut-être revoir le concept.
En plus, par rapport au tome 4, tome 4, c'était genre... On se pose et vas-y, bouffe mes 600 pages d'histoire de merde, là, Moyen-Âge, tout ça. Là, c'est quand même, je t'en donne un bout, il se passe un peu d'autres choses, je t'en donne un bout. Enfin,
c'est vrai que c'est beaucoup mieux géré.
C'est mieux géré.
Ça on peut pas le nier, c'est beaucoup mieux géré.
Bah, déjà, c'est pas sur 600 pages. Vas-y.
T'as une anecdote ?
Vas-y, Émilie.
Non, je disais, c'est les anecdotes de Pomme. En mode, j'ai une anecdote et pouf, ça
j'en aurais une.
30 pages et on est bon, quoi.
Ouais, c'est ça. Bah, c'est ça. C'est comme si je faisais des anecdotes de 30 pages au milieu du podcast.
Bah, c'est.
Et qui, a priori, en plus, n'ont rien à voir avec le podcast.
Mais non, c'est pas vrai.
Bah, écoute, t'en es plus loin. Oui, mais moi, je parle de. Alors, faudra faire gaffe, pour ceux qui ont lu plus loin, de pas aller plus loin dans la réflexion et tout ça.
Ouais.
Là, pendant cet épisode. Faites attention à ça.
Oui, oui.
Et à la fin, ils voient des morts. Bon, je vous mets un jingle et on commence le résumé.
Et du coup, on a répondu à deux questions d'auditeurs.
Merci à Sandra et...
Et à Hugo.
Et Hugo.
Hugo.
Sandra qui n'a pas du tout... qui n'a pas aimé non plus le passage avec Callahan et... Et Hugo qui se demandait si on se disait que l'action recommence enfin.
Si vous n'êtes pas...
Oui.
N'en dégoûtez pas les autres.
C'est vrai.
Eh ben putain, on est mal barré.
Allez. Aymeric, t'as fini ton avis ou pas?
Ah oui, complètement.
Allez, c'est parti.
Ce premier chapitre parle de Tian, qui n'est pas une préparation culinaire à base de légumes du soleil, mais un fermier de Calabrinsturgis et de ses trois lopins de terre. Enfin, surtout de celui qui s'appelle fils de pute, et sur lequel rien ne pousse. On apprend aussi que dans ce coin-là, le bétail se fait rare, et on commence à peine que j'ai des relents de tome 4 qui remontent.
Moi, j'ai une anecdote, pour une fois.
Vas-y.
Sur le champ fils de pute. Ça m'a fait beaucoup rire parce que ici il y a un champ qui s'appelle Trapanouille. Pourquoi? Parce que du temps du grand-père, il faisait avec les chevaux. Et ben un jour il s'est embourbé et depuis c'est devenu Trapanouille. Trapanouille. Voilà. Mmh. Et je trouve ça très mignon.
Donc ouais, il y a une longue tradition de nommage de champs.
Ouais. Et du coup fils de pute, c'est c'est parfait.
Moi je me suis demandé est-ce que j'ai pas. Est-ce qu'ils l'ont appelé fils de pute par hasard, ou est-ce que fils de pute, ça veut dire la même chose dans leur monde que le nôtre?
Bah, ça, c'est quoi en VO? En fait, c'est ça la vraie question.
Non, je pense qu'en VO, c'est aussi une insulte. Mais est-ce qu'ils se sont rendus compte de ce qu'ils ont dit pour nous ou pas, quoi?
Moi, je pense quand même. Parce que globalement, ça ressemble, et l'idée, c'est que c'est un champ de merde.
Ouais.
Oui, c'est le chant à la con, là, ouais.
Le chant que tu dis souvent, fils de pute.
Donc, sur ce terrain où rien ne pousse, mais où Tian va quand même tenter de faire pousser des trucs, Samuel risque de se blesser. Du coup, il harnache sa sœur pour travailler la terre. Sa sœur, c'est Tia. Elle est très grande et a une déficience mentale. Moi, je vous raconte tout ça, si ça se trouve, on s'en tape. Mais comme j'en sais rien, je rentre dans les détails un petit peu. Alors, Tia, on dit qu'elle est crânée. Et en fait, c'est important pour la suite. Donc, je suis contente de l'avoir noté au début de ma prise de notes. Arrive alors un robot, Andy. Le genre C3PO, mais en pas pareil. On comprend que Tia n'a pas toujours été comme ça. Il s'est passé quelque chose dans son enfance, mais on ne sait pas encore quoi. Le robot salue tout le monde et dit son horoscope à Tian. Alors, Tia et Tian, hein, faites attention, c'est pas la même personne. Donc, le robot dit, c'est la pleine lune, la lune est rouge, celle qu'on appelait dans l'entre-deux-mondes la lune chasseresse, en tout cas. Un ami va vous rendre visite, les affaires vont prospérer, vous aurez deux idées, une bonne et une mauvaise. Tian, ce qu'il veut savoir surtout, c'est si les loups, avec une majuscule loups, de la Cala, arrivent de tonnes foudres. Et oui, ils arrivent. Ils seront là dans un mois, et Tian, ça le terrifie. Il insulte le robot, lui envoie un caillou, ça fait pleurer Tia. Tian va la consoler, il lui parle mal, mais il a l'air de beaucoup l'aimer. Andy continue son horoscope. Il voit des pièces brillantes et une belle dame sombre. Moi, ça m'arrange parce que c'est elle que j'attends, personnellement, la belle dame sombre. Il y a aussi des étrangers qui viennent du monde de l'extérieur. Enfin, si c'est bien la personne à laquelle je pense, et ça se trouve, on parle encore de quelqu'un d'autre, mais bon, bref. Donc il y a aussi des étrangers qui viennent du monde de l'extérieur, qui suivent le sentier du rayon. Et eux aussi, c'est eux que j'ai envie de voir. Tian et Tia rentrent chez eux manger des patates et Andy va voir le vieux, avec une majuscule vieux, avec, pour lui raconter l'horoscope et les étrangers. Quand Zalia, la femme de Tian, les voit arriver, elle comprend de suite qu'il y a un problème. Tian lui explique que les loups arrivent et c'est un drame parce qu'ils embarquent des enfants et pas n'importe lesquels, des jumeaux uniquement et plus précisément un seul de chaque duo de jumeaux. Celui qui est embarqué devient un crâné, si j'ai bien compris, comme la jumelle de Tian et le jumeau de Zalia. Donc Tia, c'est la jumelle de Tian. Eux, ils ont 5 enfants, dont 2 fois des jumeaux. D'ailleurs, dans la région, c'est extrêmement rare que les enfants ne naissent que par un. Le choix de l'enfant qui est embarqué est totalement aléatoire. Du temps du grand-père, c'était déjà comme ça. Mais du temps de son grand-père à lui, ça ne l'était pas. Tian en a marre. Il va réunir tous les habitants de la contrée pour les convaincre de dire non. Zalia a peur, mais elle sait que Tian est très intelligent, puisqu'il sait même écrire son nom et compter.
Comme Franklin.
Ouais, c'est pas très... Ouais. c'est pas très... comme Franklin. C'est clair qu'on retrouve un peu l'ambiance un peu dégénérée de l'entre-deux-mondes et de...
Et de Mégis.
Et de Mégis. Et surtout qu'on... Alors, on l'apprendra un peu plus tard, c'est que ça signifie pas grand-chose pour nous et pour eux non plus, au final, que ça se passait différemment du temps de son arrière-arrière-grand-père, en fait. Parce que le temps étant plutôt chelou depuis un moment, ils savent vraiment pas depuis combien de temps ça dure, ces enlèvements d'enfants.
Nous voilà maintenant dans la salle du conseil. Il n'y a que des hommes et aucun crâné. Par contre, on retrouve un peu toutes les tranches de population. Les riches rancheros, les bouseux, les mystiques. Tian veut résister aux loups. Les manis, donc qui sont les mystiques, proposent de buter tous les gamins susceptibles d'être pris pour que les loups repartent bredouilles et peut-être ne reviennent jamais. Ils se prennent un veto de tout le monde.
Alors, les manis, ça, ils ont pas l'air très... surtout, ils se justifient en citant des passages de l'Ancien Testament. Donc, c'est des mystiques. Enfin... Ça a l'air d'être une branche un peu extrême du catholicisme qu'aurait dégénéré chez eux, parce qu'ils ont aussi des versions de l'homme Jésus qui apparaîtront plus tard, qui sont plus soft.
Tian veut résister aux loups. En fait, là, on est en caméra, je vois qu'Emilie est en train de lire le bouquin.
Non, je suis en train de chercher dans Concordance. Je suis en train de chercher dans Concordance la mention de fils de pute et je l'ai trouvé, donc j'aurai peut-être la réponse à ma question.
D'accord.
Bah, tu nous la diras, hein.
À vous, et le studio.
Donc, suite au veto que se prennent les manis, un autre propose de partir et de revenir, alors avec les gamins, et de revenir après le passage des loups. Mais pour aller où? Et surtout, si c'est pour tout retrouver cramé, c'est pas la peine. Un des riches prend la parole pour essayer d'appeler à la raison. Alors à ce moment-là, j'ai pris quasiment aucun nom parce que je pensais qu'on s'en foutait, et puis ils reviendront plus tard, mais je pense que c'est pas très grave de pas avoir noté les noms. Les loups prennent un jumeau sur deux entre 3 ans et la puberté. S'ils résistent, ils pourraient tuer tout le monde. Tian rappelle que la personne qui vient de parler a des enfants qui sont trop grands pour être en danger et surtout qu'il n'a aucun jumeau. Donc il n'est pas concerné par le problème. La foule s'énerve contre le riche. Tian rappelle aussi que cela ne fait que 6 générations, que ça a lieu une fois par génération. Ce n'est donc pas une fatalité. Les gens présents sont au taquet. Mais un autre des riches, pas concerné par le problème non plus, mais avec beaucoup de charisme, demande à tout le monde de se calmer et d'arrêter de dire des conneries. Finalement, leurs enfants ne sont qu'une récolte comme une autre.
Écoutez-le. Je fais l'ambiance.
C'est riche. En plus, ceux qui sont enlevés reviennent. Alors bon, certes, ils n'ont plus rien de ce qui faisait d'eux des humains, mais bon, ils reviennent quoi. D'ailleurs, à ce moment-là, je vous propose de faire une pause et vous avez 4 heures pour répondre à la question « Qu'est-ce qu'on leur a pris qui faisait d'eux des humains ?»
Bah, je me suis dit qu'on saurait dans la deuxième partie, mais...
Peut-être.
J'en sais toujours rien, mais à mon avis, on leur a pris leur âme.
Alors moi, c'était plus l'aspect philosophique de, tu vois, qu'est-ce qui fait que c'était des humains et que ça n'en est plus, et qu'est-ce qu'ils sont, du coup, s'ils ne sont plus des humains.
Là, on a clairement une opposition entre la raison pure et la sécurité du côté du Dover-Holzer, le gros fermier, comme ils disent, et Tian qui est plutôt sur l'argument du cœur et qui veut se défendre, quoi.
Alors, je vais préciser, parce que je me suis posé la question tout le long du truc. Dover-Holzer est souvent appelé le gros fermier. Moi, je l'ai jamais mis parce que je pensais que c'était grossophobe, en fait.
C'est celui qui a beaucoup de terre.
En fait, non, c'est le gros dans le sens qui a beaucoup de terre. Voilà.
Ah, en français, c'est ça. Ouais.
Et en français, ça. Et en plus, en ayant lu quand même quelques Kings maintenant, je comprenais pas d'où ça sortait dans dans ses descriptions, parce que c'est pas les gens qui l'appellent comme ça, c'est vraiment le narrateur dans King. Et j'avais posé la question, et suite à un débat, voilà.
Eh non, c'est le plus donc, gros propriétaire terrien.
Voilà, si on l'appelle le gros fermier, c'est pas, c'est pas une discrimination physique, la manière de le dire. Donc sur ce, un vieux se met à gueuler au fond de la salle. Alors en fait, il est pas si vieux que ça, mais il paraît très âgé. Il a une croix gravée sur le front, il n'a pas l'accent du coin, et pourtant il est d'ici. Tian se demande s'il ne vient pas d'un de ces autres mondes dont parlent les manis. Le vieux, avec une majuscule, est celui qui a amené la croyance en l'homme Jésus. Alors après, en lisant, je me suis demandé si c'était vraiment lui. Mais à ce moment-là, c'est ce que j'avais compris. Et donc, il s'appelle...
Qui avait amené l'homme Jésus, c'est ça?
Ouais. Ouais,
oui,
mais
si,
non, en fait, c'est...
Enfin,
si, il me semble.
Ça n'avait pas répondu chez eux.
Dans la deuxième partie, on en sait un peu plus là-dessus.
Bon, ok. Okay. Et donc, il s'appelle le père Callahan. Et au moment où j'ai écrit ça, je n'avais absolument pas fait de lien avec Salem.
Alors qu'il le lâche comme un gros cliffhanger. Hein,
tu nous as posé la question en mode, si on connaît le père Callahan.
Je crois que je te l'ai posé qu'à toi.
Bam.
Je crois que je te l'ai posé qu'à toi.
Après, si t'as faké que t'as pas lu le livre et que t'as fait que regarder le film, vu qu'il est peu présent, ça se tient.
Ouais, sauf que le bouquin, je l'ai résumé. Ah oui. Donc, c'est le père Callahan. Il s'énerve, il n'en a rien à secouer que celui qui était en train de parler soit un riche ou pas, ni que personne ne lui ait donné la parole, parce que c'est très codifié la manière dont ça fonctionne, ces réunions.
La plume, ça doit être dégueulasse.
Il harangue... c'est pas très Covid-friendly.
Très Covid, ouais.
Il harangue la foule en leur disant que ce sont des lâches, des chiens, des mots pour les motiver, quoi, comme on sait faire. Pour lui, il n'y a qu'un seul moyen, embaucher des mercenaires, et justement, Lucky Luke n'est pas loin. Enfin, trois pistoleros et un apprenti. La foule n'y croit pas, les pistoleros ont disparu en même temps que Gilead il y a 1000 ans.
Du coup, c'est qui rentre en plan?
Bah, c'est Hoth.
En fait, vu qu'ils sont 4, 5, j'aurais plutôt dit les Dalton.
Oui, mais bon.
C'est qui,
il y a aussi. Il y a aussi une histoire de ne pas pouvoir les payer. Mais d'un, les pistoleros ne bossent pas contre de l'argent. Et de deux, sous le plancher de son église, le père Callahan cache une chose dont il a envie de se débarrasser depuis qu'il est arrivé là, après s'être enfui d'une ville nommée Jérusalem Slot.
Et il pense. Alors, aussi que c'est
vous emballez pas, c'est un numéro de Penthouse.
Forcément les pistoleros. Hein.
Qu'est-ce que tu dis, Amric?
Je dis, vous emballez pas ce qu'il cache, c'est juste un exemplaire de Playboy, il a honte, c'est tout.
c'est collector dans ce monde-là.
Oui.
Ah oui, le papier, alors du papier glacé. En
c'est
plus.
Ça. Déjà, une feuille, c'est waouh.
Grand poil, c'est à toi.
Première. Alors, en fait, avant ça, je voulais juste revenir sur un truc. Dans cette partie-là, on va avoir un peu plus de détails sur la timeline de ce qui s'est passé. Donc là, ils vont reconfirmer que ça fait en gros 6 générations que les loups viennent, alors que la Cala existe depuis plus de 1000 ans. Alors, là où certains disent qu'ils ont toujours, ils ont connu que ça, que c'est, qu'il y a toujours eu ces enlèvements à la Cala. Et ils vont aussi préciser que les loups sont pas des humains, que ce sont des guerriers de l'œil cramoisi, peut-être même des vampires ou des espèces de chimères d'un autre monde.
Ça, ils le disent dans ce passage-là?
Yep.
Ok, bien. Bah, heureusement que t'es là.
Et donc, suite à l'annonce de Andy, on passe à la première partie. Vadash, chapitre 1, le visage qui se reflète sur l'eau.
Nous voilà enfin avec notre quatette préférée après le nôtre. Par contre, tout le début de ce passage résume le tome précédent, et il est hors de question que j'en reparle ici. Allez écouter notre épisode sur le sujet. À la fin, Eddie se pose des questions métaphysiques sur la vitesse du passage du temps qui est soumis aux éléments extérieurs, et avec Jake et Susanna, il se demande pourquoi le nombre 19 est important.
Alors, ils vont réfléchir au fait que ce chiffre-là s'est incrusté par petites touches un peu partout dans leur vie, et on va avoir plusieurs exemples, notamment le nom d'un bar qui s'appellerait le bar 19. Ils prennent l'habitude de ramener leur fagot de bois, mais toujours par 19 branches, enfin... C'est vraiment quelque chose qui s'est insinué sournoisement.
Ils deviennent un peu zinzin quand même. Hein.
Peut-être.
On est d'accord que normalement... Ouais,
c'est la dysenterie.
On est d'accord que ce chiffre, faut pas le dire normalement.
Pourquoi faut pas le dire?
Si.
Dans le tome 1, si tu le dis, si tu y penses, tu meurs quand même. Hein.
Non, il y avait qu'une personne qui devait pas le dire.
C'était qu'une personne parce qu'elle avait été hypnotisée par Flag.
Moi j'ai retenu ça. Vous allez voir, je le dis très peu dans cet épisode. Bon, alors, ils marchent dans la forêt. Ils n'ont pas énormément de choses à manger. À force de papoter, ils se sont rendus compte qu'il y avait beaucoup de similitudes entre le monde de Roland et celui des trois autres. Des chansons, des contes, l'homme Jésus, etc. Le chiffre donc dont on parle depuis tout à l'heure, c'est aussi taper l'incruste dans leur vie, comme disait Grand Poil. Il est partout, et même dans les branches des arbres. Quand Roland explique à Jake qu'il a le Shining, Jake ne comprend pas ce que c'est. Allez écouter notre épisode sur Shining. Et Roland décide qu'il comprendra par lui-même en temps voulu, et évidemment, il n'eût pas fallu attendre longtemps. Alors ça papote du bon vieux temps à New York, quand Jake explique à l'équipe que des gens étaient en train de l'observer pendant qu'il ramassait des baies. En réalité, cela fait plusieurs jours que c'est le cas, Roland les a remarqués. il y a un moment, mais n'a rien dit pour voir lequel autre de ses disciples allait s'en apercevoir le premier.
C'était un test. C'était un test, comme il le fait souvent. Et après, il a aussi rien dit parce qu'il se doutait qu'ils n'étaient pas méchants, sinon ça aurait été...
Pour l'instant, Roland pense qu'il ne faut rien faire de particulier. S'ils étaient mauvais, il leur aurait déjà sauté dessus. La troupe reprend sa marche. Maintenant, tout le groupe se rend compte que leurs suiveurs ne sont vraiment pas discrets. Susanna est d'accord avec Roland pour ne rien faire pour l'instant. La troupe s'arrête pour manger les baies que Jake a ramassées. Ça a l'air super bon, mais Roland les prévient qu'ils risquent tous de faire des rêves qui vont leur paraître très réels. Mais ils doivent garder en tête que ce ne sont que des rêves. Et ils rêvèrent.
Les boules rêves.
Les boules rêves.
Oui, les boules rêves.
Ça fait envie, hein. Ça m'a donné faim.
Oui.
Ouais.
Il y a un échange aussi, juste au moment où ils s'aperçoivent qu'ils sont suivis, où t'as Eddie qui dit au groupe et surtout à Suzanne qui trouve que le temps, ça y est, le temps a redémarré. Comme si tout le passage entre différentes histoires, quelque part, le temps s'arrêtait et que le moment où les choses vont devenir, où il va y avoir, ça va bouger, le temps se redémarrer de lui-même, quoi.
C'est marrant comme le temps s'arrête aussi bien pour les lecteurs que pour les personnages de l'histoire.
C'est ce que j'allais dire.
Mais honnêtement, ça m'a l'air quand même fait un peu exprès, les longs passages de description pendant justement où les personnages eux-mêmes sont en pleine
introspection.
Ah, j'arrive pas, comme si ils sont en pleine introspection, le moment où le temps n'avance pas vraiment et distordu, toi tu ressens un peu ce qu'ils ressentent eux-mêmes au travers de cette façon d'écrire.
Yep.
Et donc, pendant ce rêve, Eddie se crut à New York et croisa Jake et Ott.
Chapitre 2. Le délire de New York.
Rapidement, il croise donc le Jake de cette époque-là, les trois. Il croise le Jake de cette époque-là, celui qui fuyait son école pour aller à la librairie. C'était dans le tome 2 ou le tome 3, je sais plus. Allez écouter, vous me direz. Tome 2, non ? Tout le monde a oublié.
Ouais, je sais plus.
Si, c'est dans le tome. C'est peut-être le début du tome 3. Oui, c'est le début du 3. Si.
C'est le début. Bon, si. Okay. Ok.
Si, c'est dans le tome 3 qu'il le ramène dans ce monde-là.
Il l'observe faire ses achats, pour rappel, Charlie le chouchou et le livre de devinettes, qui leur sera utile quand ils seront dans Blaine le mono, et il le regarde repartir. Il voit alors Balazar, le mafieux pour lequel bossait Eddie, arriver dans la librairie. Balazar et ses sbires sont là pour faire des trucs de mafieux, comme récupérer l'argent qui a été prêté au patron de la librairie. Eddie et Jake les suivent.
Alors, il n'a pas été prêté. Hein.
Il a été donné contre un... Alors, c'est quoi? Comment ils appellent ça? J'ai noté quelque part.
En gros, je crois que pendant un an, il ne peut pas vendre le terrain.
Voilà. Et pendant cette année, enfin après que cette année soit écoulée, c'est les mafieux qui pourraient le racheter. Mais c'est même pas obligé, en fait. Ils pourraient le revendre à n'importe qui. C'est juste que sur une période d'un an, ils s'engagent à ne pas vendre le terrain qu'ils possèdent. Donc c'est-à-dire la fameuse bibliothèque et le terrain qu'on croisera d'ici peu de temps.
Donc Eddie veut savoir qui a embauché Balazar pour faire ce boulot, mais les sbires et Tower, donc Tower c'est le patron de la librairie, sentent sa présence. Il a juste le temps de voir le papier que tient Balazar avant que lui, Jake et Ott ne disparaissent de ce monde de 1977. Cette sensation s'accompagne d'un bruit de carillon. Eddie sent l'obscurité grandir autour de lui et se demande s'il y a des monstres dans ces ténèbres-là.
C'est quand même de la préparation de paiement, ça.
Ah ben, un petit peu, oui. Il finit par lire que l'argent pour la librairie a été donné à Tower par Sombra Corporation, puis le carillon devient extrêmement fort, lui fait vriller les tympans. Dans les ténèbres, il voit des yeux et le voilà qui flotte entre les étoiles et les galaxies. Et moi, j'avais vrai...
Comme par hasard.
Ça fait un peu étrange et ça rappelle un tout petit peu ce qu'avait vu Roland à la fin du tome 1.
C'est ça. Et il va reparler, je crois.
Ça fait aussi penser à ce qu'a vécu un des personnages de ça.
De ça aussi. Quand ils font le rituel de Chud. Pardon. Chapitre 3. Mia, elle attendait. Elle attendait, hein.
Alors, petit rappel de qui est Susanna. En 1960, il y avait Odetta Holmes, une femme très sociable et très impliquée dans les combats de son époque. Dans le même corps vivait également Detta Walker, une psychopathe. En rencontrant Roland, les deux personnalités ont fusionné pour donner Susanna Dean, qui est devenue la femme de Eddie Dean. Et voilà que débarque une nouvelle challenger, Mia, la mère, en haut parlé. Une seule mission, prendre soin du petit gars dans son ventre. Parce que, rappelons-le, Susanna est enceinte, très probablement d'un démon, et personne ne le sait à part Roland. Peut-être.
On le savait
avant. Vous pouvez noter. On se doutait avant.
Oui, jamais Roland, Roland a fait une ou deux vagues allusions à ça dans la fin du tome précédent.
Mais ça, c'est la première fois que c'est dit clairement. Vous pouvez noter dans vos petits carnets de vocabulaire que donc Mia veut dire mère en haut-parlé. Bien.
Si fait.
Grand merci.
Grand merci.
Et elle a des jambes.
Oui, dans son trip hallucinatoire, elle se retrouve dans une sorte de château sous lequel tournent des sortes de moteurs, des ordinateurs et d'autres trucs que North Central Positronic a mis en route il y a des dizaines de milliers d'années. Tout ça, Mia s'en fout. Attends, on dirait une chanson française des années 80, un peu « Tout ça, Mia s'en fout hein ».
Ou un
Jean Balavoine, il aurait pu chanter ça.
Un titre de film français, ouais. Ça passe
ou Jean-Jacques Goldman.
Fait par
elle a juste la dalle. Elle a juste la dalle, et ça tombe bien, il y a justement un banquet gargantuesque dans le château. Pendant que Mia lance une salutation à la statue d'Arthur l'aîné, elle ne se rend pas compte que Roland s'est glissé derrière elle. Tout ce qui suit tourne autour de la bouffe, du fait de se nourrir et de nourrir son petit gars. Et donc, la Susanna, là, est baffre, et toutes les voix dans sa tête tiennent une conversation. Les trois qu'on connaît, plus la nouvelle, Mia, plus d'autres. Oui,
j'allais dire que le fait que Roland soit glissé derrière elle, ils nous disent quand même clairement que c'est, suite au comportement étrange qu'il avait repéré, il est là pour la protéger au cas où. Que oui. Si c'est même, ça peut être peut-être d'elle-même ou d'autres choses, mais il est dans ce rêve-là avec elle pour la protéger.
Oui. Et je pense avoir noté que dans ce trip-là, enfin que Mia, pour elle, a des jambes et que donc Susanna se comporte comme si elle en avait. Mmh. Effectivement, je ne l'ai pas noté. C'est étrange. Donc tout ceci se passe en fait dans un rêve, mais comme elle fait du somnambulisme, elle agit comme si ça se passait réellement, et ce n'est pas la première fois. Alors tous les soirs, où Roland sent que ça va arriver, il reste éveillé, puis il la suit pour veiller sur elle. Donc il ne comprend pas comment Eddie n'a jamais rien capté, alors que les signes que ça va arriver sont quasi les mêmes que dans le tome 2 quand ils l'ont rencontré. Le fait que ça va arriver de changer de personnalité. Mmh.
Ce qu'il faut aussi préciser, c'est que dans son rêve, elle baffre, elle mange vraiment beaucoup. Dans la réalité, elle mange cru des morceaux vraiment, vraiment dégueulasses. Là, la description de ce qu'elle est en train de manger, ça te donne pas faim du tout. Et après, elle se plaindra de quelques modestotes. Il dit, oui. Oui, oui.
Il y a des raisons.
Logique.
En plus, ils ont pas de citrate de bétaïne.
Ce que j'aime dire.
Pendant que Roland la suit, il écoute aussi un peu de loin la discussion des gens qui les suivent. Ils sont vraiment, vraiment pas discrets. Donc on résume. Jake, Eddie et Hot partent va à Dash. Susanna ne va pas tarder à se lever pour une balade nocturne et Roland veille. Que veut dire va à Dash? Bon, on le saura sûrement plus tard, hein, mais à ce moment-là... Et plus tard, c'est maintenant. Retour sur la jeunesse de Roland. Ça nous avait manqué. Lui... Son cathète ont eu, alors son cathète de l'époque, hein, avec ses potes là, ont eu deux formateurs, Cort, le bourrin, et Vanet, l'intello. C'est lui qui leur a appris ce qu'il y avait à savoir sur Va'adash. Alors, est-ce que Va'adash est un nom? Est-ce que c'est un adjectif? Moi, à ce moment-là, je n'en ai aucune idée et personne n'a trop su me répondre.
Et personne ne le sait, c'est un peu tout.
Voilà, mm-hmm. C'est schtroumpf. En fait,
C'est comme en
anglais des mots qui se transforment en verbes très facilement, comme ce qui est devenu googlé à l'heure actuelle. Ils font ça très souvent.
Et bah, Dash, personne n'a su te répondre. J'ai résumé ce qu'il y a dans Concordance. Comme tu mens.
j'ai rien compris à ton explication alors.
Du coup, je sais pas, c'était sur Asclep, ça doit être quelque part, on pourra le redire du coup, ce que j'avais résumé pour pas spoiler la version qu'il y a dans Concordance.
Ah. Oui, ce qui était intéressant, c'était la différence entre l'anglais et le français. Pour comprendre le terme français,
vrai,
c'était aller à Dash.
Ouais, c'est tout
je
Dash.
Je me souviens plus maintenant.
Ouais,
voilà.
C'est tout Dash, on sait tout Dash. En fait, on dit voyager Va'adash, c'est un état de rêverie lucide, le corps et l'esprit vont Va'adash, truc de machin se rend d'habitude par le Va'adash. On dit aussi pénétrer dans le Vadash. On parle de faciliter l'état de Vadash. Attends, est-ce que je spoil pas là? Non, les autoroutes Vadash, tu vois, et l'espace Vadash, qui est un néant entre les mondes. On y trouve les monstres Vadash ou monstres du Vadash. Donc ça désigne pas tout, n'importe quoi. C'est des concepts qui sont liés, mais en effet, le mot on l'utilise comme un adjectif, comme un verbe et comme un nom, quoi. Mm. En gros.
Roland pense qu'il a déjà voyagé Vadash. Je suis incapable de dire si cette tournure de phrase est juste malgré les explications d'Émilie. Je suis désolée, mais je suppose que oui, du coup.
Si.
Et donc, il pense avoir voyagé Vadash grâce au cristal rose. Donc, confère nos deux épisodes sur le tome 4. Mais la voix de Vanet dans sa tête lui met le doute. Par contre, c'est vraiment ce qui est en train d'arriver à Hoth, Eddie et Jake. Roland les voit disparaître, mais une sorte d'ombre prenant leur forme reste là, comme pour garder leur place dans ce monde. Mais c'est super risqué d'aller Vadash, il pourrait ne pas revenir. Mais bon, ben là, Roland, il n'a pas trop le temps de s'inquiéter pour eux, puisque Susanna se met en route à travers bois avec son fauteuil. Il est quand même badass, son fauteuil, à Susanna.
Mmh. Ouais, après, ils en avaient récupéré un plus moderne que ce que le vieux qu'elle avait ramené de son époque.
Enfin, c'est pas un quad non plus, quoi.
Ouais, c'est exactement ce que je me suis dit.
Bon, donc elle finira en rampant quand même, elle va pas pouvoir aller partout où elle veut.
Roland la suit en l'écoutant se parler à elle-même. Elle arrive à un marais, se fout à poil, se jette à l'eau et commence à manger toutes les bestioles qui lui tombent sous la main. Ce passage m'a un peu filé la gerbe, perso. Pour Roland, il n'y a aucun doute, Susanna est enceinte du démon, mais comment expliquer ça à Eddie? Finalement, il rentre au camp, lui et Susanna. Eddie et Jake sont là, donc Susanna aussi, et Roland peut enfin dormir.
Chapitre 4. Palabre.
Une fois tout le monde réveillé, Susanna est persuadée.
Elle est chaude, elle est chaude.
Je l'ai pas.
Tu connais pas Palace ?
Ah oui, d'accord, ok, je l'ai. Une fois tout le monde réveillé, Susanna est persuadée d'avoir dormi comme une masse. Roland va leur expliquer ce que le Vadash, ou voyager Vadash, ou je sais plus quelle formule utiliser. Et donc les manis, ces espèces de chamans que l'on croise régulièrement depuis le début, s'imposent de longues périodes de jeûne pour ensuite déterminer le lieu propice à générer le Vahadash. Donc, truc de drogué peut-être.
Les boules de cristal. Sectes qui veulent se reconnecter avec la nature et leur moi intérieur.
Et donc, comme on disait, les boules de cristal favorisent le Vahadash et parfois même un peu trop. Donc Eddie et Jack ont cru qu'ils ne reviendraient jamais. Et puis, il y a eu une histoire de musique que je n'ai pas comprise, mais les revoilà sains et saufs, avec le sentiment que le quatette a des ennuis, mais sans trop savoir lesquels. Eddie et Jake racontent leur histoire. Dans les trucs fous, il y a le nom de l'autrice qui a écrit Charlie le Chouchou. Ce n'est plus Beryl Evans, mais Claudia E. Innes Backman. Jake ne se souvient pas du reste.
Oui, Roland,
Backman.
Roland l'hypnotisera plus tard. Là, ils n'ont pas le temps. Le groupe qui les suit va sûrement venir à leur rencontre aujourd'hui. Petit point sur le fait que le gérant de la boutique est d'origine allemande et que le manoir par lequel Jake a rejoint l'entre-deux-mondes s'appelle Dutch Hill. Aucune idée de si c'est important ou pas pour la suite. Eddie parle aussi du papier que tenaient les malfrats. Il avait l'impression que c'était le rayon, qu'il y trouverait des infos sur la tour sombre. Donc le rayon, c'est pas juste un chemin finalement, c'est tout un ensemble... C'est comme Vahadash, c'est un peu tout un ensemble de trucs.
Bah le rayon, c'est un ensemble de pistes qui leur permettrait de trouver le bon chemin.
Bah, jusque-là, c'était vraiment très présenté comme très un physique. Chemin, les limites des panneaux, des trucs comme ça, mais ça peut être un peu plus subtil apparemment. Donc pendant que Roland et Eddie devisent de l'importance des détails, Jake dit le chiffre interdit à haute voix. Vous savez, on en a parlé au tout début, là, celui qu'on obtient en additionnant 10 et 9. Et puis on en parle dès le chapitre 1 du tome 1 ou presque, donc vous pouvez aller écouter le premier épisode sur la tour sombre. En fait, c'est le nombre de lettres que contient Claudia E. Innes Backman, donc le nom de nouvelle autrice de Charlie le Chouchou. Roland le note dans un coin de sa tête, mais décide de ne pas le relever pour l'instant. On découvre que Roland a des tendances libertariennes, puisqu'il rêve de la mort de tous les hommes de loi et que Calvin Tower, le propriétaire de la librairie, est aussi le proprio du terrain vague sur lequel Jake a fait son bad trip dans le tome 2, celui sur lequel il y a la rose qui se trouve dans la baie de la tortue.
C'était pas un bad trip, il a kiffé ce qu'il a eu avec la rose.
Ah pardon, mais moi je me souviens qu'à la lecture, je me suis dit que ce gamin, ça allait pas. Hein.
Ouais, non, bon, le passage de la rose, il a kiffé.
Mm. Moi, ça m'inquiète un peu tout ça, mais bon. Mais je sais que je n'ai pas le même rapport à cette rose que vous. Je l'ai évoqué l'autre jour et Émilie a pas compris pourquoi je disais que c'était inquiétant une rose. Et non, moi je m'en méfie de cette saloperie, hein, vraiment. Et pas pour comment dire, pas pour râler contre le bouquin ou quoi. Vraiment, dans la manière dont je lis le bouquin, la rose, j'arrive pas à voir ça comme un truc merveilleux. C'est pour moi, c'est des trucs noirs du bouquin.
J'ai pas compris pourquoi tu l'as trouvée inquiétante, j'ai pas compris pourquoi tu l'insultais. Inquiétante, à la limite, je veux bien. Mais c'était un côté très, presque comme si c'était quelque chose de maudit, ou forcément d'annonciateur de quelque chose de très négatif. Et c'est pas forcément à ce stade de la lecture, je le vois pas comme ça, tu vois. Pour moi, c'est un grand mystère. Et ils en sont attirés plus comme un truc mystique, positif que négatif, pour moi.
Ouais, ah oui, que eux le voient comme ça, oui. Mais oui, moi, ma lecture, je me dis non, ça va pas, il se trompe.
Ok. Bon,
peut-être que moi, peut-être que c'est moi qui me trompe, mais c'est mon ressenti.
C'est ton ressenti, ouais, il y a beaucoup de se tromper. Ouais.
Du coup, j'ai des jolies roses rouges dans le jardin et je les vois plus que de la même manière. Mais bon. Donc, je sais plus où j'en suis. Tome 2. Tac. Oui, donc comme je vous disais. La rose, donc, qui est dans le terrain de la baie de la Tortue. Tortue qui se trouve être le gardien à l'autre bout du rayon qu'ils suivent. Et là, j'ai envie de mettre une musique épique à ce moment-là. Je trouve que ça irait très bien dans le bouquin par rapport à ce qu'ils sont en train de se raconter. Et donc, Sombra Corp a acheté ce terrain pour garder la rose à sa place en attendant d'avoir le droit de l'approcher. Il est fort probable qu'il y ait une porte au nom de Sombra Corp dans Manhattan qui mène à l'entre-deux-monde. J'ai pas retenu le nom du patron de Sombra Corp, mais il y a 34 moins 15 lettres dans son nom et prénom. Encore. Calvin Tower est donc très certainement le gardien de la rose sans le savoir, et c'est peut-être même une histoire de famille. Donc ce serait des gardiens de descendants en descendants. Jake est... Jake dit qu'il est le dernier de sa lignée parce qu'il n'a pas d'alliance. Alors on va mettre cette naïveté sur le compte de son âge et sur le fait que même de nos jours, beaucoup trop d'hommes pensent que la contraception est une affaire de femme. Mais ce n'est pas le sujet ici. Même si c'est inconscient, il est sûr que Calvin Tower protège la rose qui se situe sur le lot 298, numéro donc 18 plus 1, dans la baie de la Tortue, puisqu'il vaut plusieurs millions de dollars et que le livreur est dans une dèche totale.
Le libraire.
Absolument, et je suis en train de me dire, mais de quel livreur il s'agit?
Non, bah écoute, il a tellement besoin d'argent qu'il fait, Uber sur le Deliveroo sur le côté là.
J'ai chaud. Alors on note que Hot semble apprendre à parler, mais Susanna pense que c'est peut-être juste une impression. Cette dernière propose de racheter le terrain pour être peinard. Elle est pétée de thunes, enfin en tout cas elle l'était. Donc, il va falloir qu'ils retrouvent une porte qui les ramène en 64, époque où Susanna a disparu. Susanna va devoir redevenir Odetta et convaincre son gestionnaire de lâcher la maille. Ensuite, il faudra trouver une porte pour aller en 77, acheter le terrain de la rose. Facile, jusque-là. Sauf que non. Roland les calme tout de suite. On ne trouve pas des portes comme on trouve des gares dans leur monde. C'est à ce moment-là qu'arrive un bonhomme qui a peut-être une solution à leur problème. Il a une croix gravée sur le front et il vient de leur monde. Il s'agit évidemment du père Callahan, qui n'est plus prêtre, mais le redeviendra un jour peut-être. Lui, il a quitté notre monde en 83. Il salue Roland le pistolero bien bas et ce dernier lui propose de s'asseoir et d'exposer son problème. Après des échanges de politesse, Roland rappelle qu'ils sont tous des pistoleros et pas des vagabonds que l'on peut acheter pour un travail. Moi, Roland, je le trouve, son côté ancien aristo, je trouve qu'il est souvent présent quand même. Hein.
En même temps, c'est lui, c'est totalement sa personnalité et ce qui...
C'est dur de casser l'éducation fondamentale qu'on a reçue jusqu'à
son adolescence. Mais totalement. Mais c'est très présent dans sa façon d'être.
Et c'est encore plus vrai quand il doit être dans des réunions publiques, et on le verra plus tard qu'il sait, je sais pas si on peut dire qu'il sait jouer un rôle, mais en tout cas, ça fait partie même de sa nature. C'est pas qu'une question d'éducation. Il fait ça tellement naturellement que vraiment, c'est lui. C'est pas juste quelque chose qu'il fait pour s'attirer les bonnes grâces des gens.
Lui, la tête. Donc, Eddie prend conscience que Roland a fait des pistoleros à l'insu de leur plein gré, ou en tout cas, à l'insu de son plein gré à lui. Jake, au contraire, il est au taquet. Callahan espère qu'une fois qu'ils connaîtront la situation, ils convaincront les réticents de l'utilité qu'ils peuvent avoir, mais c'est pas comme ça que ça marche. Les pistoleros n'ont pas à convaincre qui que ce soit. Callahan propose que les hésitants de son groupe les rencontrent pour papoter, et qu'ils seront peut-être convaincus juste avec ça. Que ses copains seront convaincus, pas les pistoleros.
Ouais.
Il aborde alors... Oui.
Il y a juste un petit moment où t'as Roland qui dit à Callahan qu'ils ne font qu'un, et il y a Eddie qui a l'air un peu... comment dire, qui est un peu mal à l'aise d'être un peu emprisonné comme ça à la coupe des pistoleros. Mmh.
Là, c'est ça, il prend conscience qu'il est devenu un pistolero, mais qu'on lui a jamais demandé son avis, en fait.
Mm.
Qu'il a été un peu embrigadé malgré lui.
Tu veux dire comme nous avec le podcast?
Exactement.
Tu es notre Roland, Julien.
L'espèce d'aristo.
Je vais me couper des bouts de doigts.
Il aborde alors l'autre point. Il dit aux cathètes qu'il a quelque chose qui pourrait leur être utile. Va à Dash. Alors du coup, moi, à ce moment-là, je me dis que c'est peut-être un objet ou un pouvoir qu'il a, va à Dash. Il le présente comme ça. Je l'ai presque recopié mot à mot. En fait, Callahan...
Ça me fait penser à va à Dash, va super loin, va loin. Mmh.
Mais je pense que c'est un peu pour ça qu'ils l'ont traduit comme ça.
Tout Dash, va à Dash, ouais. En fait, Callahan a une boule de l'arc-en-ciel du magicien sous le plancher, la 13e, la noire, et elle s'est réveillée.
La 13e.
Et comme il a entendu la conversation, il sait que ça peut être utile aux cathètes. Et comme cet objet le terrifie, il est prêt à tout pour que ça ne reste pas chez lui. Pendant cette discussion, Susanna ressent des douleurs au ventre, mais dit à Eddie que ce sont des problèmes de digestion. Petit bilan rapide entre membres du cathète. Tout le monde pense que Callahan est honnête. Jake relève que Callahan et la Cala, ça sonne pareil. Mais Susanna pense que c'est une coïncidence et Roland s'énerve parce qu'il perd du temps en blabla.
Ah, lui aussi.
T'es vraiment notre Roland.
Je vais faire ça maintenant.
Du coup, je vais couper les caméras. Du coup, ça sera nickel. Le point important, c'est le fermier riche, Overholser, celui qu'on a dit qu'on allait l'appeler parfois le gros fermier. Jake et Eddie ont entendu ce nom à la librairie. Alors, je me souviens de l'avoir écrit, mais je me souviens pas du tout de ce passage. Tower l'a prononcé. Au même moment, le nom de Beryl Evans a disparu du livre Charlie the Chouchou. Et c'est à ce moment-là que l'autre est apparu. Et sur la page de droite, maintenant, il y a juste écrit Copyright 1936. Je vous laisse faire le calcul. 1 plus 9 plus 3 plus 6. Vous l'avez? C'est bon? Bien.
Ah, oui. Chapitre 5.
J'ai une anecdote. Over. Je vous ai déjà dit que j'avais gagné les concours de calcul mental quand j'étais en primaire.
Oui, tu l'as déjà dit.
Oui, tu l'avais dit.
Ouais, on a parlé du concours, je sais plus quoi, là.
Ça, c'est ouais, que
t'avais
kangourou.
Gagné un t-shirt.
Ah. Félicitations, Julien.
Je peux y aller?
Oui.
Oui, refais.
Chapitre 5. Overholser. Holzer.
Le rôle de Susanna durant cette journée sera de se faire oublier et d'observer. Et elle est super contente d'avoir ce rôle. Par contre, elle est persuadée de ne pas être enceinte et que c'est une grossesse nerveuse. D'ailleurs, je crois que c'est sa tante, il y en a une et elle se dit que c'est la même chose.
Alors, pourquoi aussi elle se dit que c'est ça son rôle? C'est qu'elle s'aperçoit quand même que le côté de la Cala, ils sont un peu arriérés et que comme elle est noire, ils la considèrent même pas comme une personne, mais comme une servante uniquement, quoi.
C'est ça. Et Roland va jouer ce rôle aussi. À peine ne pas la présenter, à peine lui parler, mais. C'est fait.
Il comprend que c'est dans leur intérêt qu'il y ait une personne comme ça qui puisse passer un peu inaperçue.
Oui. Et qui voit tout.
Qui soit peut-être un peu plus proche d'eux malgré elle, quoi.
Donc là, on a tout un passage sur les protections périodiques sales de Susanna, sur son flux qui est devenu abondant, ses douleurs de règles qui sont parties. Totalement inattendu en ce qui me concerne. Je m'attendais pas à ce que ce soit autant détaillé. Et surtout que, donc étant concernée par ce problème, moi, il m'arrive régulièrement de me demander comment les héroïnes gèrent tout ça dans les situations qu'elles vivent. Pareil pour les épilations parfaites, mais ça, c'est encore un autre sujet.
Ça, on ne connaît pas ce niveau de détail quand même dans le livre.
Exactement. Dans le livre, on n'a pas ce niveau de détail. C'est exactement ça. Donc, chacun du groupe des locaux se présente. On les connaît déjà. Est-ce que quelqu'un veut refaire un point rapide? On les a présentés dans le tout premier, au tout début du bouquin.
Ah bah, il va y avoir Tian et Zalia, il va y avoir tous ceux qui est Overholzer. Il y a les autres sont au moins d'importance. Je crois qu'il y en a, ils sont un peu plus nombreux que ça, mais il y a moins d'importance.
Il y en a un dont j'ai pas
une interro surprise.
Il y en a un dont je...
Putain. En fait, c'est surtout dans votre cas. Mais non, on n'avait pas dit qu'on ferait ça.
Ah bah, il n'y a pas que moi qui l'ai lu, je pense, donc...
Oui, mais moi, j'ai pris zéro note et j'ai zéro mémoire des noms.
Il y a aussi un gars dont j'ai oublié le nom, qui est plutôt un des métayers, ou enfin qui travaille pour Overholser, qui est là avec son gamin.
Oui.
Et on en entendra un peu plus parler de ce gamin.
Ouais.
On en reparlera de plus tard. Ouais. C'est machin le jeune et machin le vieux.
Oui.
Ouais, c'est
oui,
ça. Il y a Ben et Ben Junior, en gros. Susanna scrute particulièrement Overholser, qui a une description qui ressemble tellement à un de mes anciens collègues que j'appelais gros con, que je peux vous assurer que je pars avec un a priori très négatif sur ce monsieur.
Gros parce que c'est un grand propriétaire de conneries, c'est ça.
Et quand je dis description, je parle pas que... Je parle... Alors, il y a la description physique, mais il y a vraiment pas que la description physique.
C'est ça.
Il est donc très présent dans la conversation, ce monsieur. Il semble avoir besoin de rappeler qu'il est riche et important et qu'il ne se pliera pas au protocole requis lorsqu'on s'adresse au pistolero. Il a de toute façon l'air de penser que Roland n'en est pas un et ne vient pas de Gilead. On a appris au début du livre que pour eux, il s'agit d'une légende. Et Roland a dit il n'y a pas longtemps que le temps s'étire et qu'il est parti de Gilead depuis 1000 ans. Donc en gros, c'est comme si nous, il y a un gars qui débarque en nous disant qu'il a siégé à la table ronde avec d'autres chevaliers et Arthur.
C'est une très bonne métaphore, vu que ça revient assez régulièrement.
Mmh. Arthur l'aîné, tout ça. Et j'ai regardé au niveau des dates, il y a 1000 ans, ça correspond à peu près au chevalier de la table ronde. Je suis allée vérifier sur Wikipédia. Donc dans les échanges, on sent qu'il y a un fort sentiment de caste et de place de chacun dans la société. Les personnes, entre guillemets, importantes du groupe s'éloignent pour discuter des choses importantes. Donc il y a les deux hommes, Eddie et Roland, et le riche du groupe de la Cala. Le riche en fait des caisses, et au final, Roland le manipule pour en obtenir ce qu'il veut.
En fait, il le manipule, mais on n'a même pas l'impression qu'il le manipule volontairement. Il arrive, par ses manières quelque part presque naturelles, à le faire changer d'avis sans forcer.
Non, mais
on ne sent pas qu'il le force quand il lui parle.
La Roland, c'est Obi-Wan Kenobi, quoi.
Oh, mais oui. Il sait ce qu'il fait.
Ce ne sont pas les droïdes que vous cherchez.
il sait exactement ce qu'il fait, Roland. Et il l'amène où il veut, à l'autre qui est riche et intelligent, là. Pendant le trajet vers le camp des gens de la Cala, on apprend que le riche s'appelle Dale en second prénom, ce qui fait que lui aussi a un patronyme de 15 plus 4 lettres, comme Callahan d'ailleurs. Je sais plus si on l'a dit, mais en fait on l'a pas dit.
Ça, je crois qu'au bout d'un moment, c'est le seul truc lourd. Ouais. Ça fait 19.
On a compris que 19... Là, en fait, il l'utilise vraiment beaucoup au début, et ça va ça quand même diminuer un peu. À la fin, je pense quand même qu'on a compris le message...
Ouais, c'est plus pour montrer qu'eux, ils sont complètement obsédés par ça.
Susanna discute avec lui et capte qu'il est plein de peur et d'orgueil. C'est aussi la rencontre avec Andy, le robot, et ses horoscopes.
Andy, je l'aime pas.
Il est inquiétant.
C'est épidermique, là, dès qu'il est arrivé.
Sa manière de s'exprimer dans la façon dont il est décrit, d'agir, tu sens qu'il est pas, il est bizarre. Il est vraiment chelou.
Après, ça joue aussi pas mal au narrateur en VO qui lui fait une petite voix un peu énervante aussi.
Moi, je l'imagine exactement comme les robots dans le film avec Will Smith, là. Parce qu'ils sont grands aussi. Parce qu'Andy, il est très grand et du coup, je le vois comme ça.
Bah, il y a le nom d'Andy est, sans trop spoiler les noms des trucs qu'on verra plus tard, il y a une référence directe à Asimov dont le film avec Will Smith, iRobot, a été tiré.
Oui, ok.
Chapitre 6. La voix d'Eld.
Eddie est étonné qu'ils aient rencontré des gens et une société aussi civilisée. Dans ce coin, tous les villages s'appellent Cala quelque chose. On a tout un détail sur la géographie du coin et les particularités de chaque bled, mais on ne va pas détailler ça maintenant.
Juste, on peut préciser qu'on leur dit que d'un côté, là d'où viennent le Katet, c'est la fin de l'entre-deux-mondes, les choses se partent en sucette. Et à l'opposé, il y a Tonne Foudre, et là-bas, c'est déjà la fin. Donc en gros, la Cala est située un peu entre le marteau et l'enclume dans cette géographie.
Andy donne son horoscope.
Géographie temporelle, si j'ai bien compris, en gros.
Pas un peu des deux, en fait.
Ouais, c'est j'ai bien compris, du coup.
Andy donne son horoscope à Eddie. J'ai noté... J'ai citation, mot pour mot. « Vous allez voyager, Eddie. Voyager loin. Vous et vos amis. Cette nuit même, vous retournerez à Cala, New York. Vous allez rencontrer une dame d'ombre. Vous irez Vahadash, ça y est dit. Vous et vos amis, vous devez faire attention. Quand vous entendrez le Kamen, vous devrez tous vous concentrer les uns sur les autres pour ne pas vous perdre. Alors, pop hop, tout le monde reprend son petit carnet de vocabulaire et on note que le Kamen, c'est le carillon. Bien.
C'est ça. Le carillon de Vahadash.
Oui, du Vahadash.
Eddie pose des questions. Alors, je me suis posé la question, c'est spécifique au Vahadash, le Kamen. C'est pas une autre façon de dire carillon.
En plus, quand ça, si ça commence par un K, je pense que c'est vraiment, fait exprès.
Ouais. Ouais, puis ça a l'air plus relou qu'un carillon, quand même, hein.
C'est déjà bien relou,
un carillon.
Moins
agréable.
Ouais. Ouais.
Eddie pose des questions à Andy sur les loups. Il a l'impression qu'il y a de la suffisance, voire du plaisir au malheur des humains dans la voix du robot, même si ça semble impossible. Et il se rappelle quand même Blaine le mono. Bon, alors après, entre nous, il suffit qu'il ait été programmé comme ça. Les IA ne sont pas méchantes par nature, elles sont juste programmées et entraînées par des cons. Bref, Andy réfléchit un moment, puis demande un mot de passe à Eddie, conformément à la directive numéro 7+12. Eddie s'empresse d'aller raconter tout ceci à Roland. Une fois fait, Roland rassemble tout le monde car il est temps de faire palabre. Et croyez-moi, ça ne va pas être marrant. Dans le passage qui suit, on a de la souffrance physique forte, du suicide, du meurtre d'enfant. C'est Overholser qui prend la parole, le premier à la demande de Roland. Le premier point, ce sont les jumeaux. Dans le reste du monde, il est rare d'avoir des jumeaux. À la Kala, il est extrêmement rare de ne pas en avoir. Personne ne sait pourquoi. Personne ne sait non plus par qui ou quand les infos d'Andy sur les loups ont été bloquées. On est par contre sûr que les rafles ont commencé il y a 120 ou 150 ans et qu'ils viennent tous les 20-25 ans environ. Ils arrivent, prennent un jumeau sur deux entre 3 et 14 ans et les amènent à Tonne Foudre pendant 3 ou 4 semaines. Certains ne reviennent pas, on suppose qu'ils sont morts, mais on ne sait pas. Ceux qui reviennent sont qualifiés de « idiots dociles ». Alors attention, petit point vocabulaire. Le terme « idiot » était jadis le terme médical utilisé pour désigner les personnes handicapées mentales. Et on a trouvé le moyen d'en faire une insulte, je vous laisse y réfléchir. Mais je trouve que ça en dit long sur beaucoup de choses.
Tu veux parler d'hystérie aussi?
Mais calmez-vous.
Pour avoir lu « Ah, les salauds, ils disaient que les handicapés mentaux sont des idiots !» C'était le terme médical, c'est nous qui en avons fait une insulte dans le temps. C'était pas une insulte à l'origine.
Ok.
Pour en revenir à nos jumeaux, donc, ils régressent assez pour perdre le langage ou devoir reporter des couches. Certains acquis ne reviennent jamais. Les plus âgés semblent avoir conscience de ce qui leur arrive. C'est pour eux que ça a l'air d'être le plus dur. D'ailleurs, certains se suicident. Physiquement, ils ne bougent pas jusqu'à l'âge de 16 ans. Ils grandissent alors en un an. On entend même leurs os pousser quand ils ne hurlent pas de douleur. On comprend à demi-mot que certains parents ont envisagé de tuer leur enfant pour mettre fin à ses souffrances.
Ça a l'air horrible.
Pour ne plus l'entendre aussi.
Ouais.
Hein.
Ça a l'air triste en plus.
Ah non, mais c'est vrai. J'avais prévenu, c'est vraiment pas joyeux cette palabre.
Ouais, c'est cruel.
Après ça, il y a ceux qui peuvent aider au champ, un peu comme Tia, mais la grande majorité ne peut que rester assise ou se promener en groupe, un peu comme un troupeau de géants, parce qu'ils deviennent très très grands. Overholser précise que sexuellement, ils sont comme morts. Alors je vais encore faire un petit point. Et j'en profite pour rappeler à toute fin utile que la sexualité, ce n'est pas que faire rentrer des trucs durs dans des machins humides. Voilà, éteignez YouPorn, allez vous renseigner. Mais bon, bref, on a compris ce que voulait dire Overholser. À partir de 30 ans, les enfants qui ont été enlevés vieillissent d'un coup avec les mêmes souffrances que lorsqu'ils grandissent, puis meurent rapidement. Il est là aussi sous-entendu que certains parents abrègent leurs souffrances.
C'est encore pire que quand ils grandissent, donc... Ouais.
Ils savent que de toute façon ils souffrent pour mourir, donc ils mettent la brèche, quoi. Deuxième point, les loups. Quand ils arrivent en ville, tout le monde change de trottoir parce qu'ils sont une soixantaine. A priori, ce sont des humains, mais comme ils portent des masques de loups, on ne peut pas en être sûr. Ils ont tous des chevaux du même gris et des capes vertes à capuche. Les masques ont l'air d'être en acier, mais celui qu'ils ont retrouvé a pourri au soleil comme de la chair. Ils arrivent à vive allure, embarquent deux gamins par cheval et repartent vers l'est où tout est brumeux. Jake fait une réflexion sans importance à voix haute, mais lorsque Overholser l'interpelle à ce sujet, il l'appelle Jake So et pas Jake Sai comme pour les adultes. Donc, Overholser Ouais, mais ouais, là aussi, sortez votre petit carnet de vocabulaire.
Mais le respect est mort.
Ouais, oui, je crois que ce point-là sera jamais réutilisé par la suite. Je me souviens pas qu'il le rappelle comme ça.
Plutôt. Non, parce que justement, Jake fait ses preuves dans pas longtemps. À Skip, à Tonfoudre, il y a des vampires. Et Callahan assure que les vampires existent. Quand les loups arrivent, c'est lourdement chargé avec des drones tueurs et des lumitriques, qui sont, je suppose, des sortes de sabres laser ou des tasers un peu vénères, un truc comme ça.
Tu verras.
Inutile d'essayer de cacher les gamins, les loups les trouvent de toute façon. Finalement, les gamins crânés reviennent par le train sur des wagons plats, recouverts de leurs excréments, de bouffe et cramés par le soleil. A priori, le voyage en train dure 2 à 3 jours.
Ça, c'est un voyage gratuit, ça se plaint.
Ah, c'est marrant de voir Émilie complètement désolée des de Julien.
Oui, parce que d'habitude, on l'entend à peine dans la voix.
Je suis atterrée.
Je suis sûr que c'était en première classe, en plus.
Bah non.
Ils ont le soleil et tout, tu vois, comme Pomme, il fait chaud, ils se plaignent.
Bah ouais,
ils ont mangé, les... en plus, ils avaient à manger.
Du soleil, du trajet, de la bouffe gratos. Et ça se plaint.
Alors, ce qui est précisé aussi, et que voilà, ce qui est précisé aussi, c'est que il y a pas de gare en fait. Ils savent pas d'où vient le train, puis ils s'arrêtent au niveau de la cala. Et à chaque fois, bah, ils doivent pousser le train pour le mettre sur le côté, pour faire la place pour dans 26 ans le prochain train.
D'ailleurs, ça y est sur ta carte là, cette voie de chemin de fer. Fais gaffe.
T'as envoyé une carte.
Ouais, parce que dans Concordance, il y a une carte de tout le coin.
Attends, oui, elle y est. En bas à droite.
J'ai vu qu'il y avait le sentier du rayon, tout ça. Ouais, exact.
C'est une jolie carte.
Tout à fait.
Donc la prochaine rafle, ben, elle est dans 26 jours. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Et puis, puis la vraie question, est-ce que ce sont vraiment des pistoleros, là, les gus qui se sont pointés? Roland appelle Jake, le fait jouer au toutou bien dressé. Jake tire sur des assiettes en plein vol. Roland, Eddie et Susanna rattrapent les morceaux d'assiettes sans bouger de leur place. Roland fait un mini discours un peu pompeux d'Aristo qui veut qu'on reconnaisse son rang et celui de sa famille. Gna gna gna, je suis un pistolero, descendant d'Arthur l'aîné, tout ça, la lignée d'Eld.
C'est pas pompeux, il est là pour leur faire comprendre qu'ils ont en face d'eux un vrai pistolero.
C'est pas... Ouais, si, c'est pompeux.
Il faut poser les bases. C'est qui le patron?
Ouais, c'est un peu ça.
C'est Roland.
Jake est enfin vu comme l'égal de ses compères, donc il n'est plus Jake So mais Jake Sai. Et puis, bah, bravo les artistes, c'est parti pour dézinguer du loup. Il est décidé que la joyeuse troupe de Saltimbanque va dormir chez Callahan. Mais Overholser prévient Roland qu'il faudra convaincre quelques influenceurs une fois à la cala. Roland a pour projet de faire un bilan de la situation avant de s'adresser au conseil. S'il estime que la cala ne peut être défendue, alors ils partiront pour poursuivre leur quête.
Chapitre 7. Vadash.
Eddie et Roland échangent sur le fait qu'il est fort étrange que des loups aient une 60aine de chevaux du même gris. Petit point sur le code de chevalerie des pistoleros, s'ils se rendent compte qu'ils peuvent aider, ils doivent aider. Eddie prend conscience qu'il a envie d'aller à l'affrontement avec les loups, ça lui manque là. Roland le titille pour savoir ce qui le tracasse vraiment. La première chose... La bagarre. La première chose qui lui vient en tête, c'est le chiffre, vous savez, la 21-2. Il est partout, dans les nuages, avec une tortue, dans les arbres, dans le feu, dans le nombre de lettres des noms des gens. Puis ensuite, il y a le sujet du Vahadash et des choses réelles qui ne paraissent pas l'être. C'est ce qu'Eddie ressent, en tout cas, dans le monde qu'il visite à l'heure actuelle, dans ce monde-là. Surtout que les éléments communs aux deux mondes, comme la chanson Hey Jude des Beach Boys, ou le magicien d'Oz, tout ça, ça le perturbe. Il sait que...
Il y a aussi qu'ils ont, enfin, on a l'impression qu'ils ont fait comme un tour de rayon parce qu'ils ont, en plus du chiffre 19 qui apparaît partout, ils voient aussi pas mal de similitudes avec Megis, justement, qui se situe en théorie à des milliers de kilomètres de là.
Et à des milliers d'années aussi.
Et à des milliers d'années, probablement.
Est-ce qu'on peut juste revenir sur Hey Jude, qui est des Beatles et pas des Beach Boys?
Ah oui, oh putain.
Tu sais que à chaque fois que je suis allée vérifier, hein, parce que
c'est vrai. Tu sais que à chaque fois que je parle de cette chanson, c'est pas dans le premier épisode. Je dis un autre groupe que les Beatles, et c'est la première fois que quelqu'un réagit. J'étais un peu vexée au bout d'un moment. Mais oui.
Ah ouais. Mais parce que d'abord, je t'écoutais pas, mais là, vu qu'on est filmé, je suis obligée de t'écouter.
Non, mais en plus, dans le bouquin, il dit les Rolling Stones, non?
Non, c'est une autre chanson des Rolling Stones.
Non, c'est autre chose. Non, il y a pas de...
Il me semble qu'il y a une chanson qui est mal attribuée et je crois que c'est fait exprès.
Ah, j'ai pas fait gaffe. Bah, c'était pas celle-là, alors. Tu vois, je suis tellement à fond dans la tour sombre que je fais... En fait, j'écris comme Steve-O, quoi.
C'est ça.
Ça va, le melon ?
Donc, il sait... Ça va. Il sait... Il a chaud. Il sait que la Cala est réelle et il va y avoir un combat et des morts. Mais il a aussi l'impression que c'est du théâtre. Cette impression s'en va quand il est avec Susanna. Qu'est-ce que c'est beau, cœur-cœur, tout ça. Petit point avant la nuit. Celui qui se... Donc, ils se regroupent là, tous le cas-tête. Celui qui se retrouve à New York seul attend le son du kamen sans bouger. Ceux qui s'y retrouvent à plusieurs doivent se tenir la main au moment du kamen. Ils vont se coucher. Roland se met à rêver. Il est à Jericho Hill. Est-ce que quelqu'un veut rappeler en quelques mots de quoi il s'agit ? Vite fait, de ce qu'on en sait.
Bah, c'est la bataille c'est où la plupart des pistoleros sont morts.
Et ouais, tous ses amis, les là amis où il a perdu sont... le corps d'Elde qui a appartenu à Arthur l'aîné, enfin plein de choses marquantes qu'on n'a pas détaillées encore.
Oui, il a bah, des. C'est pour ça on sait pas grand chose. Il a des micro flashbacks sans qu'on comprenne exactement de quoi il parle en fait là pour l'instant. En effet, on comprend qu'il y a perdu ses amis qu'on a rencontrés dans le tome 4. On comprend qu'il y a une histoire avec le corps d'Elde, comme tu l'as dit, Grand Poil. Et après, en vrai, on sait pas trop.
Et
quand
une trahison
c'est passé,
aussi, je crois, qui est mentionnée.
Alors, enfin, en fait, ma question, c'était battle, pas sur... ma question, c'est pas qu'est-ce que là il va en dire, c'est qu'est-ce qu'on en sait jusqu'à maintenant, puisqu'il en parle,
ouais, oui.
Il en parle un tout petit peu dans le tome 4, c'est un peu la fin de tout, Jericho Hill.
Ouais, ça reste vague, hein, quand même, on sait pas grand-chose.
Donc, on sait que, en gros, là, on apprend que c'est une bataille qui semble sans fin. C'est là où Alain meurt la veille de la bataille finale, tué par Roland et Cuthbert, qui l'ont pris pour l'ennemi dans le noir de la nuit. La loose. Cuthbert, lui, meurt le lendemain, criblé de balles, et de toute évidence, ils ont été trahis. L'armée de Farson a le dessus, 2000 contre 12, c'est un carnage.
Toujours des excuses.
Quand le kamen sonne, Roland quitte la bataille de Jericho Hill et tombe dans les ténèbres. Il voit des grosses lettres rouges qui disent « Attendez, piéton ». En fait, Roland a changé de rêve. Alors, c'est plus un rêve, du coup. Il est à New York. Il est à New York, seul, mais pas longtemps. Voilà Susanna qui le rejoint et elle a des jambes. Et elle en est extrêmement heureuse. En discutant, il l'appelle par inadvertance Mia, mais elle ne le relève pas. Ils sont allés va-à-dash. Ce n'est pas un rêve. S'ils se font mal, par exemple, eh ben ils auront toujours mal en se réveillant. Alors moi, je me suis demandé, si Susanna se fait mal aux pieds, vu qu'elle a plus de pieds, il se passe quoi quand elle se réveille ? Mais bon. Roland veut profiter d'être à New York pour voir la librairie, le terrain vague, la rose. Bon, il s'est fait son petit planning de visite.
Et le World Trade Center.
Visiter Rome, visiter New York en deux jours, non, en un week-end.
Ça. C'est exactement ça, le guide du petit routard. Ils se mettent en route, mais s'arrêtent rapidement. Malgré les réverbères et les néons des magasins, ils ont l'impression que tout est sombre. Pour Roland, c'est la 13e boule de cristal, la noire, celle qui est chez Callahan, qui les a amenés là. Ils sont interrompus dans leurs inquiétudes par l'arrivée de Jake, Eddie et Ott. Comme c'est pratique. Eddie trouve Susanna différente. Elle met ça sur le compte des jambes, mais Roland sait que c'est parce que Mia est dans la place.
Tout ben.
Il est décidé... Merci. Il est décidé que ça ne servait à rien d'aller voir... Je reprends cette phrase. Il est décidé que ça ne servait à rien d'aller voir à la librairie, puisqu'à l'heure qu'il est, elle doit être fermée, donc il n'y a personne, et tout le monde se dirige vers le terrain vague. Il passe quand même devant la librairie, puisque c'est sur le chemin, elle est fermée comme attendu. Ils ressentent tous le désespoir et le deuil de l'endroit.
Franchement, ce passage-là, ça fait un... quand tu le racontes, ça fait un peu délire de Krakos, quoi. Tout est un peu sombre, les magasins sont fermés, alors on va être dans un terrain vague. Ok.
Vas-y, viens, on va voter à vague.
Après avoir mangé des boules rêves qui nous ont fait planer.
Eddie trouve un journal par terre, ça leur permet de savoir qu'ils sont le 2 juin 1977. A priori, à chaque fois qu'ils vont revenir, le temps aura avancé un petit peu. Il faudra qu'ils reviennent jusqu'à être le 15 juillet de la même année, jour où Balazar et ses hommes vont agir. Les voilà devant la palissade. Ils entendent une petite musique qui les ramène à des moments de bonheur et de bien-être. C'est la rose qui fait ça. Sur la palissade...
La rose, ça fait comme une montée d'extase mystique, c'est...
C'est ça. Tranche. Sur la palissade, devant le terrain vague, tout est comme avant, sauf le poème sur la tortue. Il y avait écrit avant, vois la tortue comme elle est ronde, sur son dos repose le monde, etc., etc. Et à la place, il y a un message cryptique. Oh, Susanna Millot, ma chérie divisée, a garé son semi-remorque dans son cochon du sud, l'année 99. Et semi-remorque et cochon du sud sont écrits en majuscules.
Tracos.
Mais oui, mais complètement. Roland, qui est ultra perspicace, note qu'effectivement, Susanna a plusieurs personnalités. Elle est donc divisée. Et que Millot ressemble beaucoup à Mia. Heureusement qu'il est là. Les trois gars passent par-dessus la palissade et Susanna reste sur le trottoir parce qu'elle n'a pas de chaussures. Mais Roland pense que c'est Mia qui pousse cette décision parce qu'elle a peur d'approcher son bébé démon de la rose. Hot reste avec elle. Pendant que Susanna attend, il lui arrive des choses. Premièrement, elle perd 7 minutes de sa vie. Elle ne sait pas où elles sont passées et elle perd ses jambes dans cet intervalle. La revoilà avec des moignons.
Elle se rend... juste une petite précision, c'est pas Hot reste pas par hasard, hein, c'est Roland qui trouve une excuse pour que Hot reste avec, avec Mia.
Ah, je me souvenais pas.
Oui, parce que lui, il a envie d'aller vers la rose.
Elle se rend compte donc qu'elle a perdu ses 7 minutes parce qu'elle est assise en face d'une pharmacie qui donne l'heure et elle se rend compte que tout d'un coup, il y a eu plus 7 minutes et elle sait pas. Ensuite, elle voit des gens qui sont morts et qui marchent. Enfin, en l'occurrence, une femme, un peu en décomposition.
Mais, alors, je crois que c'est là qu'elle le dit parce qu'elle prend peur, mais... d'ailleurs, je sais plus si on l'a trop dit avant, mais quand ils sont en train de vadache, les gens ne les voient pas. Ils les évitent, mais ils ne les voient pas comme un courant d'air.
C'est vrai, alors, je l'ai pas du tout dit.
Alors que là, la femme qui est morte et qui n'a pas d'œil, elle fixe Susanna. Et c'est ça, en fait, qui l'a fait flipper.
C'est oui, moi, j'ai eu l'image...
Les morts les voient.
J'ai eu l'image de l'autre mère et autre père dans Coraline.
Ah.
C'est des parents alternatifs avec des boutons à la place des yeux.
Ah.
Mais il faut lire Coraline, c'est très bien.
Ok.
Elle fixe, mais elle s'avance vers elle aussi, non?
Après, oui.
Je peux te demander si t'es allé faire pipi avec nous dans les oreilles.
Oui, et là, j'ai donc en train de chauffer, j'étais dans la cuisine, j'ai entendu Julien intervenir, et je me suis dit, ah, il faut que je parle, et je suis revenue en courant. Le casque sans fil. Je vais chercher ma tisane, je reviens.
Bah, je t'attends si tu veux.
Non,
mais du coup, il y a plus
de temps. Non, elle t'entend, c'est bon.
C'est bon, ouais. C'est maintenant qu'en fait on peut dire plein de trucs sur Stephen King et la Tour Sombre.
C'est ça.
plein de choses qui la feraient revenir en courant avec son eau brûlante dans les mains.
Bon alors, du l'autre côté de la palissade, plus les gars se rapprochent de la rose, plus sa mélodie est forte et plus ils ont l'impression de voir des gens qu'ils connaissent dans les ombres du terrain vague. Cette mélodie...
Ouais, juste dans les noms et dans les ombres un peu qui croisent, on retrouve quelques noms connus, surtout dans les souvenirs d'Eddie. On a notamment Skipper Branigan qu'on avait croisé rapidement dans Tout est fatal.
Oui, qui est un de ses potes de quand il bossait, je sais plus où. Un truc comme ça, non? Ouais.
Oui, c'est ça.
Cette mélodie leur procure amour, réconfort et bien-être. Ils tombent sur la pancarte Mills et son bras promotion. Au sujet de la construction à cet endroit d'une résidence du nom de l'abbé de la Tortue. Le numéro de téléphone semble avoir changé, mais Jake n'est pas sûr. Roland, lui... n'en a rien à secouer de tout ça, il avance vers la rose. Susanna a le temps de réfléchir, et comme elle est pas trop con, elle comprend vite qu'une nouvelle personnalité a fait son apparition. Et ça la fait quand même super flipper. C'est à ce moment-là qu'elle voit un homme nu qui visiblement vient de subir une autopsie, un mort quoi, de l'autre côté de la rue. Elle panique et hurle le prénom d'Eddie. Dans le terrain vague, la rose s'ouvre. Entre ses pétales, il y a un brasier écarlate et un soleil jaune. Eddie voit alors tout plein de petites choses qui paraissent insignifiantes, mais qui ont permis de grandes choses ensuite. Dans la rose, il voit aussi la tour et, donc je cite le livre, « Il comprit la raison d'être, sa façon de distribuer ses rayons de puissance vers tous les mondes, comment elle les maintenait dans la stabilité dans le grand hélix du temps, derrière chaque brique qui s'est écrasée au sol plutôt que sur la tête d'un gamin, etc., 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 se dressait la tour. » Eddie est complètement absorbé par la beauté de la mélodie, mais il y a quand même une dissonance. Roland, qui plane à 15 000, dit qu'il y a deux pivots dans l'existence, la tour et la rose, mais qu'elles ne forment qu'une. Jake plane aussi. Il compte les pétales de la rose, je vous laisse deviner combien il y en a. Pour Roland, il faut vite acquérir le terrain pour protéger la rose tant que la tour ne fait pas son taf. C'est alors qu'Eddie entend Susanna hurler. Il se précipite, Jake récupère un truc par terre avant de partir, et Roland promet à la rose de revenir. Tout le monde est maintenant avec Susanna. Roland explique que tous ces morts sont des morts errants. Ce sont des gens qui sont morts trop brutalement pour comprendre ou qui refusent leur état. Et ils sont peu nombreux. Susanna raconte pour le temps qui a disparu, Eddie s'inquiète du temps qui peut-être s'écoule plus vite que prévu. Et si lorsqu'ils reviendront, le terrain était déjà vendu ?
Ouais, parce qu'ils savent pas encore comment ça va fonctionner entre deux vadaches si vont pouvoir revenir.
S'ils arrivent à temps.
Se sont fixés pour en début juillet, quoi.
Le carillon sonne, ils s'agrippent les uns aux autres et hop, fini le vadache. Jake a toujours le truc qu'il a ramassé dans le terrain vague. C'est le sac de bowling qu'il avait quand il est venu là en 1977.
Oui.
77. Dessus est écrit « Rien que des strikes à l'entremonde ». Alors qu'avant, il y avait écrit « Rien que des strikes à l'entre-deux-quilles ».
Ouais, c'était ça.
En fait, c'est pas tout à fait la même chose. Et puis aussi, il paraît être en métal. Mais j'ai pas très bien compris. C'est une sorte de métal tissu.
Non, enfin, c'est un truc que Roland et compagnie ne connaissent pas à l'époque. C'est une espèce de cuir. Il y a, c'est un peu. Je pense que c'est surtout ça. Hein,
Peut-être en cuir peint brillant, quoi. Argenté.
Voilà, c'est du brillant argenté. Je pense que c'est Roland qui ne connaît pas la
matière.
La matière.
Ok.
Et là-dessus, personnellement, tu comprends assez vite à quoi va servir ce sac de bowling. Si tu l'as pas, si vous l'avez pas, tant pis. Moi,
Maintenant que tu poses la question, oui, mais jusqu'à ce que tu poses la question, non, j'avais pas fait de, je voyais pas ce que ça venait foutre là. Je verrai bien plus tard.
Je comprenais pas du tout à quoi ça lui servait. Enfin, c'est trop évident. Il va récupérer un sac de boules de bowling. Il va le ramener dans leur monde réel. Qu'est-ce qu'il va bien pouvoir faire avec?
Qu'est-ce qu'il va mettre dedans comme boule?
Ah ouais, d'accord.
D'accord. Oh
il
là
va faire
là.
Et quoi
en toute honnêteté, je me souviens vraiment pas du tout de ce qui se passe dans la suite du roman, mais à ce moment-là, j'ai fait...
Genre, pour une boule de bowling, pour une boule de cristal du magicien, il faut un sac de boule de bowling. Toi, c'est bon, c'est un peu... Mais peut-être, hein, mais bon... C'est pas un suspense de foufou, quoi. Bon, on verra. Roland semble avoir deviné, lui, du coup, un peu comme Grand Poil, et pas comme Julien, du coup, à quoi va servir ce sac, mais ne donne aucune explication, comme d'habitude. Il dit à Jake de le rajouter à son inventaire, et maintenant, dodo, sauf pour Mia, qui a la dalle.
Deuxième partie. Contes et récits. Chapitre 1, le pavillon.
Les voilà en route pour la Cala. Pendant le trajet, Jake se rapproche de Roland pour lui demander quelque chose en tant que Dean. C'est-à-dire en tant que chef, notez-le dans vos petits carnets de vocabulaire. Jake voudrait aller dormir chez son nouveau copain, Ben, donc on a dit tout à l'heure qu'il y avait un gamin à peu près de son âge.
Ah, c'est Slightman, je l'ai retrouvé dans mes notes, Slightman, le jeune.
Ben Slightman.
Voilà.
Mais présente ça à Roland comme si c'était pour des raisons stratégiques. Ça fait un peu mal au cœur de Roland de se rendre compte que ce gamin de 11 ans a honte de demander des trucs de gamin de 11 ans. Il rentre dans son jeu et lui dit d'y aller, et de surtout tout ramener, de noter la moindre chose. Voilà le groupe qui arrive à la Cala. Ils sont attendus à la salle des fêtes pour un banquet d'accueil, et alors qu'ils descendent la rue principale, Eddie a de nouveau un mauvais pressentiment. Il traverse la foule, monte sur l'estrade, et Overholser prend la parole pour dire que d'après lui, ils sont de vrais pistoleros de la lignée d'Eld, et qu'ils peuvent les aider. Ensuite, c'est notre cathète préféré après le nôtre qui prend la parole, et chacun se présente. Roland de Gilead, fils de Steven de la lignée d'Eld. Eddie prend le relais, Eddie Dean de New York, fils de Wendell, de la lignée d'Eld, du cathète de 19. Puis Susanna. Alors Susanna qui précise qu'en plus elle est là.
T'as dit 19.
Ouais, c'est vrai.
J'allais le dire.
Putain, je vais mourir. Jake donc précise que lui il est du cathète de 99. Et puis c'est au tour de Hoth. Il avance, il se met sur ses petites pattes arrière, il salue bien bas et il dit « Hoth ». Eld, grand merci.
Trop mignon.
Je pense que de toute la tour sombre, c'est mon passage préféré. ce passage-là. Il est super touchant parce que je sais pas comment il fait pour qu'on n'en ait pas marre de Hoth, parce qu'il est assez discret et pourtant j'ai trouvé ça trop mignon et trop émouvant. Et ce moment, en fait, c'est ça correspond aussi à Eddie qui se rend compte qu'il est un pistolero un peu malgré lui, à Jack qui sague, qui est plus sot, où tu te dis bah voilà, c'est un casse-tête, ils sont complets, ils sont prêts à faire la bagarre quoi, tu vois. Et il y a presque un basculement à ce moment-là. Et ce quand j'ai lu ce passage-là, j'ai envoyé un message à Grand Poil en me disant dis-moi quand il est, dis-moi quand il est, parce que j'adore ce passage, je l'ai trouvé trop beau.
Eddie prend la parole, piégé par Roland. N'empêche, on note que Eddie et Jake ne sont pas du même quatête. Il y en a un qui est du quatête de 19 et l'autre du quatête de 99. Mmh. Alors d'ailleurs, il dit.
C'est un peu aussi. C'est Jake qui le dit qu'il est du quatête de 99.
Ouais. Et Eddie, il dit du quatête de 19. Mmh. Et puis il tilte en se disant mais pourquoi Jake dit 99? Et puis après, il se dit mais pourquoi moi j'ai dit 19? Il sait pas, c'est venu tout seul. Donc Eddie prend la parole, piégé par Roland. Il fait un discours en reprenant le vocabulaire du pays, donc j'ai trouvé ça très bien, très, très intelligent de sa part. La foule en délire l'acclame, ce qui n'a pas l'air de plaire aux notables au fond de la salle. Et maintenant, place à la fête. Les gens viennent leur causer pour avoir plus d'infos. Il y en a même un qui essaie de savoir s'ils sont, enfin, qui ils sont vraiment. Parce que pour lui, ce ne sont pas des pistoleros, donc qui êtes-vous? Ça chante, ça danse, Susanna pousse même la chansonnette, mais le plus fou, c'est quand Roland monte sur la scène pour entonner la chanson du riz et faire la danse qui va avec, que les habitants de la Cala reprennent en chœur avec lui. À la fin, Roland tombe dans la foule, mais en fait, c'est fait exprès, lol.
Après ça avait l'air d'être une scène, en tout cas une danse particulièrement éprouvante. Alors, j'arrivais pas à me la figurer, mais en tout cas, on sent bien que Roland fait là quelque chose d'exceptionnel et qu'à la fin, même ses pieds bougent plus vite quasiment que ce qu'on ne peut voir.
Oui, et puis c'est une chanson de la déesse de je sais plus quoi, donc pas de l'homme Jésus.
La dame du riz.
Ouais, et pas de l'homme Jésus, donc ça a une certaine importance.
Oui, bah c'est un peu comme si tu venais dans le Nord-Pas-de-Calais et que tu te mettais à chanter les corons, tu vois, du coup tu fais partie des gens du coin.
Oui.
Voilà. J'ai découvert que cette chanson avait une vraie grande importance dans le nord et une partie du Pas-de-Calais.
Ou chez moi, quand tu fais le bon bourguignon, quoi.
Donc,
j'ai juste raté un petit truc que j'avais noté, c'est le moment où Eddie doit prendre la parole piégé par Roland, comme tu disais. C'est le moment où il se rend compte de son rôle, de sa place dans le quatette, que ce sera le porte-parole, en fait, de Roland de Gilead, et pas juste un pistolero, pas juste son égal.
C'est-à-dire qu'il sera en dessous.
Voilà, il sent qu'il sera un peu en dessous et que et c'est encore une leçon de j'ai trouvé une leçon de Roland apprise à la dure en mode comprends-le de toi-même quoi.
Ouais. Callahan est un peu chamboulé de ces dernières heures. Alors, non, j'ai raté un truc. Après ça, donc après toutes ces festivités, les trois adultes partent chez Callahan et Jake chez son copain Ben. C'est un peu mignon ce passage où ils se regardent les uns les autres partir. C'est une des premières fois où ils sont séparés depuis très 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 longtemps.
Il y a Andy quand même qui participe un peu au festin et qui est un peu creepy et mystérieux avec Susanna.
Ah ouais, j'ai pas noté. Je me souviens pas.
Il a essayé de lui parler, il lui a ramené son fauteuil roulant. Il a voulu lui parler de ce bel inconnu qu'elle allait bientôt rencontrer, tu vois, un peu en mode, je te dis ton horoscope, creepy.
Ah,
ok. Moi, je m'en souviens pas du tout. Callahan est un peu chamboulé de ces dernières heures, mais surtout, il ne veut pas raconter son histoire la nuit. Il le fera quand il fera jour, demain. Susanna a entendu Zalia dire que le père de son mari, donc le père de Tian, alors le grand-père, en fait, a des choses à raconter sur les loups. Il est vieux et sénile, mais ça vaut quand même le coup d'aller l'écouter. En attendant, tout le monde va au lit.
Alors, il a des trucs à raconter sur les loups. On nous dit carrément qu'ils ont tué un loup.
Mmh. Oui, il a tué un loup. Absolument.
Chapitre 2. Articulation.
Roland est réveillé très tôt le lendemain à cause de l'arthrite qui le bouffe de plus en plus. Il se demande s'il pourra arriver à la tour avant qu'il ne soit trop tard ou s'il aura le courage d'arriver là-bas infirme. Il envisage aussi de se dire « Ah ben, si je tiens pas sur mon cheval, je me tuerai », mais bon, il sait que non. Il se dit qu'il faut qu'il parle de l'état de Susanna à Eddie. Il va pour prendre un café, mais il tombe sur la gouvernante de Callahan, Rosalita de son prénom, Rosalita, la petite rose, hasard. C'est un prénom donné par King. C'est potentiellement totalement par hasard, mais peut-être pas, parce qu'on est dans la tour sombre et que le hasard n'existe pas. On en sait rien.
Je pense que c'est pas un hasard, parce que c'est un prénom qu'on n'a jamais eu encore.
Ouais, mais peut-être qu'il avait Rose en tête au moment de l'écrire, tu vois. Rosalita voit sa démarche, comprend sa douleur et l'amène à part pour le mettre cul nu, lui passer une pommade qu'elle fait elle-même. Et, alors, je suis pas sûre d'avoir bien compris, mais il me semble qu'il se propose de faire des trucs cul nu aussi à deux plus tard, mais je suis pas sûre à 100% d'avoir bien compris.
Oui, il se dit que... Si
le drag aussi, non?
C'est le happy ending du massage.
Mais pas maintenant, plus tard.
Le finish.
Roland s'éloigne de la maison de Callahan, ensuite, après tout ça, sous un prétexte complètement nul, et il demande à Callahan de lui envoyer Eddie tout en retenant Susanna. Lorsque Eddie arrive, Roland lui raconte tout sur Susanna et Mia. Ils décident ensemble de ne rien dire à Susanna. Par contre,
Il y a un moment touchant entre les deux, justement, où avant le début de cette discussion, où t'as Eddie qui dit à Roland, bon, on va vraiment parler de enfin, il sait, en gros, il savait déjà de quoi ils allaient parler, et il redoutait un peu le moment où ils auraient à en parler.
Je voudrais encore faire un petit point. Je sais pas, je me souviens pas. Ah.
Fais ton petit point, vas-y.
Non, mais les autres, peut-être. Après, oui, il y a une discussion. Je trouve que là, c'est pas une discussion de chef à sous-fifre. C'est une discussion limite entre copains. Bon, j'ai un truc à te dire, j'ai repéré des choses chez ta femme. Faut que je t'en parle, quoi.
Et l'autre le savait déjà, mais il voulait pas en parler.
Il y a un truc, et c'est pas juste ta femme est à tromper, toi mon pote. C'est sa femme, c'est aussi son ami à lui. Enfin, il y a. Et donc, par contre, oui, moi j'ai relevé un truc qui dit à un moment donné là, Roland. Alors, donc petit point physiologie hormones. Eddie fait remarquer à Roland que Susanna a toujours ses règles et que c'est chelou si elle est vraiment enceinte, surtout depuis si longtemps. Et là, Roland dit ah ben c'est bien la preuve que le bébé est un démon. Alors, je sais pas comment ça marche à Gilead. Peut-être que chez eux, c'est comme ça. Chez nous, tu peux être enceinte et avoir tes règles et ne pas attendre un démon. Voilà. C'est-à-dire, même en général, je crois que c'est jamais arrivé que ça en soit.
Merde. Et avoir des gros boobs.
Oui, aussi.
Et
bah
élargir
oui, du coup,
des hanches.
Oui, tout ça. Et avoir tes règles en même temps. Tout.
Parce que ça, ils le remarquent aussi.
Oui.
Ah oui.
Oui. Et donc, ils ne diront rien à Susanna pour éviter que Mia prenne le contrôle pour protéger le bébé. Eddie dit que la seule chose qui pourrait valoir de mettre sa femme en danger, c'est la rose. Moi, ça m'a un peu marqué, ce truc. Qu'il y a quand même une bonne raison pour mettre sa femme en danger. Il fait promettre à Roland de protéger Susanna coûte que coûte. C'était évidemment le plan de Roland depuis le départ.
Roland est quand même persuadé qu'il y a, il y a un rapport avec le démon qu'ils ont rencontré au retour de Jack et à sa rencontre dans la note parole.
Ah bah oui, c'est le truc de base, c'est de dire le père de cet enfant, c'est le démon qui a violé Susanna et qu'après c'est elle qui l'a violé. Enfin, c'était un peu étrange cette scène.
Oui.
En revenant chez Callahan, il trouve là une paire de jumeaux venus prendre la commande de cartes du coin pour les pistoleros. Roland les raccompagne pour leur donner des consignes. Et voilà que commence, en ce qui me concerne, l'ennui de ce bouquin. C'est là que j'ai commencé à en vouloir à Callahan d'exister, à King de l'avoir créé et à Julien de m'avoir demandé si ça me disait de participer à un podcast il y a plus de 3 ans. Attention, Callahan est un personnage qui vient du roman Salem et en racontant son histoire, il spoil Salem, il spoil le bouquin. Donc je vous invite à mettre pause, à aller écouter notre épisode sur Salem, si c'est pas encore fait, et puis après de venir reprendre cet épisode. C'est bon, c'est prévenu, les gens ont eu le temps normalement de réagir, on y va. Callahan commence par « c'était à cause de l'alcool ». Pour moi, ça suffisait à résumer les 50 prochaines pages, mais mes comparses et amis m'ont dit que non. Donc, on détaille.
En plus, il annonce la couleur. Chapitre 3. Le récit du prêtre, New York.
Callahan est un prêtre qui picole depuis plus ou moins toujours en se voilant la face. Lorsqu'il arrive en 69 à Jérusalem Slot, charmante bourgade du Maine, dans laquelle il va rencontrer le mal à l'état pur et le regarder dans les yeux. À Salem, il se passe des choses vraiment étranges, mais Callahan n'a pas voulu croire Ben Mears et Matthew Bourke, donc c'est des personnages du bouquin, quand ils sont venus lui parler de vampires. Et puis, il y a eu l'enterrement du gamin qui meurt au tout début du livre, et là, il a été convaincu. Après, il y a eu la meuf de Ben, Suzanne Morton, et qu'en fait, elle s'appelle Suzanne. Alors, je sais pas si c'est un lien ou si c'est encore le chapeau des noms de King. Et donc, il y a eu Suzanne Morton. Elle a été faite vampire pour punir Ben d'avoir monté un cathète. C'était sa meuf, en fait. Donc, pour chasser le vampire, Barlow, dans Marston House. Dans l'équipe, il y a aussi un gamin. Oui.
Non, vas-y. Ah.
Dans l'équipe, il y a aussi un gamin, comme Jake. Barlow tue les parents du gamin et puis menace le gamin. Callan essaie de le sauver, mais sa foi n'est plus assez forte. Barlow laisse partir le gamin et se paye le curé. Enfin, plus exactement, il l'oblige à boire son sang. Callan court ensuite se réfugier dans son église, mais il ne peut plus y rentrer, puisqu'il est plus ou moins maudit.
Il s'est foudroyé, littéralement, dès qu'il pose la main sur la poignée, quoi.
Il va alors s'acheter un billet de bus pour New York. Le bus fait escale à Hartford, ville que l'on retrouve dans Brume.
Ah, les bus Macron.
Il demande au chauffeur du bus d'aller lui chercher une bouteille d'alcool, et là, il y a tout un trip autour des autoroutes de l'ombre, et j'ai rien compris. Alors, si quelqu'un veut en dire un mot... Bah, à ce moment-là, j'ai rien compris.
Alors, pour le coup, les autoroutes de l'ombre, c'est juste les chemins détournés que les gens peuvent prendre quand ils ont besoin de s'enfuir, et après, il y aura les autoroutes vadaches qui sont une façon de voyager entre les mondes et qui sont difficilement identifiables.
Oui, puis aux États-Unis, faire du bus de nuit, c'est beaucoup plus répandu que chez nous, quoi. C'est tout.
Vu que leurs transports ferroviaires sont pourris.
Il arrive à New York, il erre, il dort sous un journal qui parle des frères Hitler, des brutes qui passent à tabac des personnes juives et des personnes noires avant de leur graver une croix gammée sur le front. Alors juste pour l'anecdote, donc tout ça je l'avais écrit à la main dans un cahier et je l'ai dicté à mon téléphone dans le micro et il n'a jamais voulu m'écrire frère Hitler. À chaque fois il m'a marqué frère de Claire.
C'est bien.
Bon voilà.
Il y a une autocensure.
Ben je sais pas si c'est, j'ai pas réussi à savoir si c'était une censure entre guillemets ou si il entendait pas et c'est une vraie erreur quoi. C'est d'ailleurs de là que vient la cicatrice de Callahan, donc cette histoire de croix gammée. Mais heureusement, ils n'ont pas eu le temps de finir, donc au lieu d'avoir une croix gammée, ça lui fait une croix. Donc là, quand Callahan arrive à New York, on est en 75. On s'en fout, mais moi j'ai subi les détails, alors vous aussi. Finalement, Callahan n'est pas devenu un vampire. Il est juste souillé par le sang, par le goût du sang de Barlow. Il ne voit plus par...
Non, par le sang lui-même, il l'a bu. C'est pas juste le goût qui lui fait perdre un peu le goût au reste, c'est que ça l'a affecté quand même physiquement derrière.
Oui, il a le sang en lui, tout ça. Il ne voit plus le monde qu'en rouge et gris, du coup, il ne peut pas exiler sa peur ou aller au-delà de ses montagnes de couleurs. Callahan finit par trouver un foyer de sans-abri alcoolique à deux pas du terrain vague de la Rose, mais qui, à ce moment-là, est encore la charcuterie fine Tom et Jerry, dont on a déjà vu la pancarte. Par terre, dans les histoires des autres. Il vit dans ce foyer, il finit par y bosser. Au bout de quelques temps, il a l'impression de changer. Au vu de sa description, on peut penser qu'il va à Dash, mais il ne sait pas ce que c'est à ce moment-là. Puis, il se met à repérer les autres vampires. Il les a divisés en trois catégories. Type 1, rare, comme Barlow, ils vivent vieux et peuvent créer des nouveaux vampires de type 2. Les types 2 peuvent aussi créer de nouveaux vampires, sauf que ils sont cons, les types 2. Et puis ils vivent pas longtemps. Ils peuvent créer des types 2 ou des types 3. Les types 3, eux, peuvent juste se nourrir, mais ils sont malins. Alors là, on a des gens qui échangent du sang. Et quelle est la première question qui vient à l'esprit de Eddie, jeune homme des années 80 ? Est-ce que les vampires peuvent attraper le sida ? Pour Callahan, ils sont porteurs sains, c'est-à-dire qu'ils le portent, le transmettent, mais ne tombent pas malades.
D'ailleurs, pour Callahan, ça s'appelle même pas le sida encore à l'époque.
Non, à ce moment-là,
La maladie des homos.
Ouais, mais non, il le dit pas comme ça.
Lui, il n'y a pas encore le nom de sida.
Oui, ouais. Puis à son
époque... C'est la maladie du sexe ou un truc comme ça. Enfin, ils font le lien, par contre, avec ça.
À son époque, c'était vraiment appelé comme ça, quoi.
Oui, absolument. Par contre, ouais. Ah oui, alors par contre, Callahan, c'est un mec des années 70, et dans ses propos, il y a beaucoup de choses ultra dérangeantes, mais qui correspondent bien à ce que pouvaient penser les gens à cette époque.
Ouais,
mais il est même moderne pour son époque, je trouve.
Ça dépend.
Ouais, enfin,
oui, il est moderne pour son époque, dans le sens où il s'en fout
pour dire
d'avoir
que
des gens
prêtre,
autour de lui qui sont mous, quoi.
Voilà.
Mais,
bah oui, quand même.
Il a quand même des propos, je trouve. Bon.
Mais c'est un prêtre.
Ça va,
voilà.
Ça va avec le personnage. Donc maintenant parlons un peu de Lupe Delgado. Delgado comme le grand amour de Roland. Coïncidence peut-être. En tout cas, Roland et Diez Sudana le relèvent.
Comme Carmen. Elle fait la même vanne. Hein.
Ouais, non, mais c'est bien. La cohérence est importante.
J'ai pas Carmen Delgado.
San Diego.
San Diego, ouais.
J'ai pas non plus.
C'est pas grave.
Ok, super.
Mais où est-elle donc?
Ok.
Tu te fais signe d'avancer.
Ouais, j'ai bien vu. Ou alors il chasse un moustique, je sais pas. Mais...
Non, je fais Roland.
Donc, Lupe Delgado. Lupe, c'est une des personnes qui travaille la nuit au foyer. Callahan explique au KLM qu'il était amoureux de Lupe, mais qu'il n'est pas homo pour autant. La preuve, les mollets d'une femme lui collent la trique et il n'a jamais voulu tripoter les enfants de cœur. Et donc c'est ce que je disais, il n'y a rien qui va dans la façon de penser de Callahan quand même à des moments.
Oui,
donc on va refaire un petit point. Callahan est un vieux con qui fait des amalgames à vomir à toute fin utile. Je rappelle que homosexualité et pédophilie n'ont absolument strictement rien à voir et que ça serait bien de ne plus avoir à le préciser. Un soir,
oui,
il
mais
se
de
rend
son
compte...
temps.
Après, ça reste un prêtre,
non,
hein, il ne sait pas trop. Hein.
Mais... En plus, c'est un prêtre, il est censé, voilà.
Oui, mais
ça
si...
va.
Si de nos jours plus personne ne pensait ça, tu vois, je le relève, je ferai pas un petit point, tu vois. Mais malheureusement, oui. On n'a pas encore fini avec ce genre de conneries.
Et oui.
Donc un soir, il se rend compte que Lupe a été mordu par un vampire de type 3. Mais Lupe ne le sait pas parce que les types 3 font oublier ces choses-là.
Parce qu'il l'a.
Et si
Lupe.
Ah et je viens de faire réveiller.
Si on a parlé sida tout à l'heure, c'est pas par hasard, Lupe a été contaminé. Il a aussi été mordu à plusieurs reprises. La première fois que Callahan se transforme en Buffy, c'est le jour où un vampire est venu s'abreuver à la jugulaire de Lupe dans le foyer, et donc que Callahan l'a vu faire. Callahan lui plante un couteau de boucher dans le crâne, le vampire disparaît, littéralement, comme un Jedi. Ce qui est pratique pour nettoyer derrière. Enfin, pas tout à fait comme un Jedi, plus comme un passager d'un vol vers Boston. Il reste la montre, les plombages, ce genre de choses. Lupe refait surface en n'ayant aucun souvenir de ce qu'il s'est passé. Comme d'hab. Callahan décide de veiller sur lui. Bon, alors on est en 76, Lupe a contracté le sida, vous vous doutez que ça ne finit pas très très bien. Lupe meurt rapidement et Callahan lutte pour ne pas boire d'alcool. Ce jour-là en tout cas. Parce qu'il est à jeun depuis quelques mois. La nuit tombée, alors qu'il va à Dash sans en avoir conscience, il voit un mort qui déambule, comme notre cathète en a fait l'expérience un peu plus tôt dans le livre. Une fois revenu dans la réalité, il rentre dans un bar. Finalement, il passe l'été à bosser en intérim, à se saouler et à buter des vampires.
J'ai trouvé ça, enfin, tout le passage de Callahan, et en particulier ce moment-là où il repart en Suède, c'est que il arrive à une forme d'expiation en se mettant à chasser les vampires, et en même temps, il reprend ses vieux démons en se saoulant la gueule et en reprenant l'alcool là où il avait réussi à l'arrêter en travaillant dans le foyer. Moi, je suis triste et j'avais de la pitié pour Callahan dans quasiment toute son histoire.
Mais c'est pour ça que j'aurais aimé lire cette histoire ailleurs qu'à ce moment-là dans ce livre. Parce que en plus, toute la partie où il parle du foyer, pour avoir bossé en foyer avec des gens comme lui, ça m'a vachement parlé. J'ai même vu des trucs où je me suis dit, putain, mais ouais, en fait, ça aurait été une bonne idée, on aurait pu faire ça à l'époque, ça aurait pas été déconnant. Mais pas maintenant, pas là, enfin bon, bref. Mais je suis d'accord, hein, c'est terrible, hein, son histoire à Callahan. Et je suis perdue. Ah voilà, non, en 76, il est mort, nana, il picole, il tue des vampires, voilà. Et le problème, c'est qu'à force, ben, les vampires ont aussi essayé de le buter. Ou peut-être d'autres personnes, parce qu'il ne sait pas trop à ce moment-là. Callahan se rend compte qu'il y a un peu partout des graffitis et des affiches le désignant, comme des cibles. Il a été en fait pris en chasse par des régulateurs à grand manteau jaune et à tatouage en forme de cercueil sur la main, les soldats du roi cramoisi. Eddie nous fait la gentillesse de nous rappeler que les grands chasseurs de cercueils du tome précédent avaient aussi ce tatouage.
Merci Eddie.
Oui.
De plus, lorsqu'ils sont arrivés à Topeka avec Blaine LeMono, donc ça c'était dans le tome 4 aussi, au début du tome 4, il y avait écrit Vive le roi cramoisi sur des murs. Entre la traque dont il est le gibier et les envies d'aller rôder sur les autoroutes obscures, Callahan décide de se barrer et ça tombe bien. Et il y a une passerelle entre deux mondes au milieu d'un pont de New York. À ce moment-là,
c'est le moment où il va vraiment utiliser les autoroutes Vadash pour changer de monde, quoi.
Et ça, c'est quand même utile pour l'histoire.
C'est pratique.
Même pour nous, pour la compréhension de l'articulation de tous les mondes.
Voilà, et puis de comment est-ce qu'il a fini par arriver en étant presque un simple humain, comment il a fini par arriver dans l'entre-deux-mondes.
Bon, après, il dit que c'était un tox aussi, et puis il est arrivé dans l'entre-deux-mondes, donc je me faisais pas trop de soucis.
Il a été amené.
On l'a repris par la culotte.
Il a été arraché à son moment.
Il avait même pas de culotte.
Ouais, c'est ça.
C'est vrai. Il est arrivé cul nu. Donc à ce moment-là, Rosalita vient nous sauver en interrompant Callahan. Eisenhart, le gros ranger, donc il y a le gros fermier, le gros rancher, pardon. Il y a le gros fermier et il y a le gros rancher. Et de ce que j'ai compris, Eisenhart, il est au-dessus de Overholser. Donc il les invite à sa ferme. Dès qu'ils ont récupéré les cartes du coin, ils iront. Mais avant ça, il est temps d'aller faire un tour dans l'église et de voir la 13e boule. Mais encore avant, Callahan dit qu'il a un jour croisé les soldats du roi cramoisi. Ils ont les yeux rouges. Roland lui demande s'il pense que les loups sont ses soldats, mais Callahan ne le pense pas. Il est pas sûr à 100%, mais pour lui c'est peu probable. Et là je me dis, mais pourquoi nous avoir fait chier avec tout ça du coup? On verra plus tard.
Chapitre 4. Suite du récit du prêtre. Autoroutes occultes.
Il leur faut moins de 5 minutes pour rejoindre l'église. Du coup, Callahan n'a pas le temps de raconter tout ce qui lui est arrivé entre son départ de New York en 76 et son retour en 81. Malgré cela, Susanna, Eddie et Roland ont toute l'histoire en tête, ce qui veut dire qu'ils partagent le kef avec le vieux. Donc le vieux, c'est Callahan. Ce qui veut dire qu'il va sûrement les suivre quand ils quitteront la Cala.
Ça veut dire qu'il fait partie quelque part de il fait partie de leur catette.
Ouais.
Il s'intègre.
C'est ça.
Mais ne paniquez pas. Callahan va nous raconter son histoire à nous aussi.
Ah, je suis rassuré.
Donc il traverse la passerelle et se retrouve dans un monde dystopique dans lequel un ancien vice-président qui a dû démissionner suite à des fraudes dans la vraie vie, dans notre monde à nous, est devenu président dans ce monde-là. Il se dit qu'il doit être fou, il se reprend, il se rend compte que tout ceci est vrai et finit de traverser la passerelle. Il se fait embaucher dans un fast-food du coin et vit dans un hôtel à côté. Très vite, il se rend compte que certains matins, il est à Lidbrook, dans la deuxième réalité, et d'autres, il est à Fort Lee, dans notre réalité. Il s'y fait rapidement, mais au bout d'un moment, il croise un vampire de type 3 dans la deuxième réalité. Du coup, il pose sa démission et il se barre. Après ça, il passe 5 ans sur la route. Le reste, il ne le raconte pas au cas-tête de Roland, mais au nôtre, oui, bordel. Au cours de ses pérégrinations, il croise des ignobles. Donc les ignobles, c'est les soldats du roi cramoisi. C'est comme ça qu'ils les appellent.
Alors c'est les régulateurs, ouais, c'est comme ça qu'on les désigne la première fois aussi.
Ouais, exactement. Donc il croise des ignobles de loin, il croise aussi des affichettes comme à New York, mais qui désignent quelqu'un d'autre. À un moment, il entend le carillon. Il est certain que c'est un avertissement. Il se planque et voit effectivement passer 3 ignobles dans une Cadillac rouge zébrée. Pour Callahan, ils l'ont manqué. S'ils l'ont manqué, c'est parce qu'en se jetant dans le bas-côté pour se planquer, il est passé dans une autre réalité. Un jour, alors qu'il a trouvé un boulot de manutentionnaire à la journée à Sacramento, il y a un article signalant que le directeur du foyer où il a vécu et travaillé à New York est mal en point. Plus exactement, il a été poignardé, on lui a crevé les yeux dans une ruelle et une croix gammée a été gravée sur son front. Ce sont les frères Hitler qui ont fait le coup.
Il a pris cher.
Il a pris très cher. Mais ce qui est étrange, c'est qu'il n'est pas juif et il n'est pas noir, donc il ne correspond pas aux personnes qui sont attaquées habituellement par les frères Hitler.
Je crois pas qu'ils nous le disent, hein, si. Rowan Magruder, s'il le dit.
Si, il le précise. Ouais.
Ah, pardon. Je ne me souviens plus.
En fait, quand il lit l'article, c'est précisé dans l'article, il me semble. Mais bon, bref, 81, Callahan reprend la route et repart à New York. Suite de l'histoire plus tard. Voilà les jumeaux qui arrivent avec la carte du coin pour Roland. Après l'avoir récupéré. Alors, est-ce que vous voulez dire un mot sur ce qui se passe avec le papier qui a l'air super cher, super important?
Ah ben, on l'avait déjà vu précédemment, enfin dans d'autres livres, qu'à cette époque-là, ouais, le papier c'est une denrée très très rare qui même ultra précieuse sur la, même les enfants à qui on a demandé de faire la fameuse carte. Au départ, ils voulaient pas y toucher, quoi. Ils avaient peur d'abîmer, de l'abîmer. Et quand ils vont voir Roland le plier pour le ranger, ils sont là.
C'est un blasphème. Mais Roland montre que, en la pliant, il la protège, en fait. Et ça les rassure. Un petit peu, mais ils ont pas l'air trop. Mais cette scène est marrante. Donc, après avoir récupéré la carte, Roland rejoint Callahan dans l'église. Susanna et Eddie restent dehors. Roland a peur que la 13e noire rende le démon de Susanna plus fort. Dans l'église, Roland ressent la présence de la boule. Il est maintenant sûr que c'est elle qui les a amenés Va'adash à New York. Roland est terrorisé par cette chose et son pouvoir, Callahan aussi, mais il la sort quand même de sa planque. Roland ressent quand même une très forte attirance pour cet objet, c'est même une attirance érotique, il nous dit. Un frisson érotique.
Il y a un dilemme parce qu'il sait que c'est quelque chose de puissant et qu'il va les foutre dans la merde et qu'il préférait qu'ils restent endormis, mais il sait aussi qu'ils en auront besoin pour retourner à New York. Et sauver la rose.
La boule est enfermée dans un coffre de bois de fer, appelé aussi bois fantôme. Sur le haut de la boîte sont gravés trois signes, une rose, une pierre, une porte. En dessous de la porte, il y a d'autres symboles qui sont montrés dans le livre, parce que même pour King, c'est relou à décrire. Et a priori, les symboles voudraient dire dérobée, donc une porte dérobée. Ça correspond à un livre qui s'appelle « Et que l'ange regarde de ce côté ». Et à ce moment-là, du bouquin, il y a marqué que enfin, la manière dont c'est tourné la phrase, je n'ai pas su si ça correspond à un livre de Roland ou à un livre de Callahan.
Ah.
Et j'ai relu le passage plusieurs fois et vraiment, mais bon, on s'en fout un peu, je pense.
Ouais.
Callahan veut savoir quand Roland lui enlèvera cette chose. Bientôt, répond-il. Bien assez tôt, pense-t-il.
Un point qui est important aussi, c'est que on apprend dans ce passage-là que Callahan a pu à nouveau bénir de l'eau, que Dieu l'a à nouveau accepté et qu'il a récupéré sa foi quelque part. Il a été accepté dans la. C'est pas juste comment dire. C'est pas juste sa volonté à Callahan qui s'exprime, mais qu'il y a une espèce de volonté de Dieu qui fait qu'il a un peu expié, que ses voyages lui ont permis de soit de se purger de la corruption de Barlow, soit de revenir dans ses bonnes grâces.
Après, quand on a lu Salem, on sait que le pouvoir est aussi une question de foi. Mm. Et Callahan avait perdu sa foi, c'est ça qui lui a fait perdre contre Barlow.
Oui.
Et peut-être que justement, il inconsciemment, il s'est rendu compte, il s'est dit qu'il avait assez souffert et qu'il était temps de se pardonner, qui n'est pas forcément non plus. Comment dire? C'est pas forcément une intervention extérieure, en fait, qui lui a rendu...
Je comprends ce que tu veux dire, je suis d'accord.
Mais il me semble qu'il le dit lui-même, hein, plusieurs fois qu'il a perdu la foi. Hein.
C'est oui, pas... ben, même dans le...
C'est lui-même.
On le savait dès Salem, sa foi était déjà vacillante au moment où ils arrivaient là, que c'est pour ça qu'il n'a pas réussi à affronter Barlow, parce que sans ses armes, qui étaient le crucifix ou les symboles, il était perdu.
Mm.
Chapitre 5. Le conte de Grey Dick.
Nous voilà maintenant au ranch d'Eisenhardt. Les loups arrivent dans 23 jours et aucun moyen de savoir quand Susanna va accoucher. Pendant que Jake a des activités d'enfant classique avec son copain Ben, Roland fait le point sur les armes que possède le rancher. Susanna et Eddie, eux, sont chez les Jafford. Il est temps pour Eisenhardt d'exposer ses craintes sur le fait de tenir tête aux loups. Parce que bon, les pistoleros arrivent comme des super-héros, mais après, soit ils meurent et la Cala doit se débrouiller, soit ils gagnent, ils s'en vont et la Cala devra faire face seule s'il y a des représailles. Margaret, la rancheuse, débarque de sa cuisine pour donner son avis. Je me permets de marquer une pause, oui, encore. Et de vous proposer anecdote. De noter... Non, pas encore. Non, je vous propose de noter le conseil que donne Margaret à ce moment-là. Elle dit... À quelques mots près, hein. C'est un peu une paraphrase. On n'est pas concerné par le problème, ça serait peut-être bien qu'on ferme notre grande gueule sur ce sujet, qu'on écoute et soutienne ceux et celles qui le sont.
Oui.
Il faut
ça reste comme conseil.
Que Eisenhardt n'a eu que des singletons, donc ils ont jamais été touchés
non,
par les.
Non,
par les
c'est pas ça. C'est absolument non. pas ça. J'en parle un peu plus bas.
C'est plus.
J'en parle
alors,
un peu.
C'est, ah non, c'était Overholzer. C'était Overholzer, l'autre qui avait eu que des singletons.
Oui. Lui, c'est autre chose. Donc c'est une citation approximative, ça reste un bon conseil par les temps qui courent, notez-le. Donc dans les croyances à la Cala, il y a Dame Oriza, la Dame du Riz, une déesse ou une héroïne selon qui raconte l'histoire. Voilà l'histoire de comment elle s'est débarrassée de Grey Dick, l'homme qui a tué son père. Pour enterrer l'âge de guerre, Dame Oriza invite Grey Dick à manger chez elle. Grey Dick n'est pas si con et refuse, il sent bien que c'est un piège. Elle lui promet que non, les armes resteront dehors, ils ne seront que deux, et en plus, ils seront à poil. Comme ça, pas moyen de cacher une petite arme. L'autre, face à ce point sans culotte, n'a plus le cerveau irrigué correctement, et il accepte. Sauf que Dame Oriza, bien décidée à venger son père, s'entraîne depuis des semaines au lancer d'assiettes tranchantes. Au bout d'un moment, pendant le repas, elle lance donc son assiette, tue l'assassin pervers et finit son verre de vin. On nous raconte cette histoire parce qu'à la fin, Dame Oriza dit au Maccabée que ton premier jour en enfer dure 10 000 ans et qu'il soit le plus court de tous. Et Margaret rêve de dire ça aux loups, parce que si ses enfants sont nés juste après le dernier passage des loups et sont donc trop grands maintenant pour être en danger, eh ben leurs enfants à eux ne sont pas protégés. Et donc tout le monde est parti vivre loin d'ici. Pour Margaret, les loups lui ont pris tous ses enfants d'une certaine manière. Là où d'autres... ont gardé la moitié de, ses enfants, de leurs enfants, finalement. Ouais. L'autre raison pour laquelle on nous a parlé de cette histoire, c'est parce que sur toutes les calas du coin, il y a des lanceuses d'assiettes. Elles sont en titane, les assiettes, pas les lanceuses, et peintes en bleu, comme les assiettes que Déta aimait casser dans ses délires. Tome 2, je crois.
Là, je les ai un peu vus comme Captain America et le bouclier, quoi. Je sais plus c'est quoi le nom du matériau qui est utilisé pour le bouclier.
Du vibranium.
C'est ça, le vibranium.
Donc les dames les lancent une fois par mois en l'honneur de Dame Orisa, mais Margaret maîtrise vraiment bien ce lancer et fait une démo époustouflante. Et c'est là que j'ai une anecdote perso par rapport au lancer d'assiette.
Ah.
Alors déjà, les dames, comme tu dis, elles ont un nom aussi, elles s'appellent les sœurs d'Orisa.
Alors j'ai pas compris, alors c'est parce que c'est pour ça que j'ai pas précisé, j'ai pas compris s'il y avait une sorte de culte avec les sœurs d'Orisa et puis que les dames de la Cala avec les sœurs d'Orisa participaient à ça, ou si les personnes qui participent à ce lancer sont les sœurs d'Orisa.
Celles qui participent au lancer sont des sœurs d'Orisa.
D'accord.
Elles manient l'assiette.
Eh bien, elles manient l'assiette comme mon arrière-grand-mère, voyez-vous. Celle dont je tiens le prénom, absolument. Milieu des années 20, au tout début de son mariage, son mari, donc mon arrière-grand-père, est rentré un soir tard après le bar et a râlé parce que la soupe était pas chaude et elle lui a balancé l'assiette à travers de la gueule. Ce qui a marqué voilà, des choses. Et cette histoire
et
d'assiette.
Les générations à venir en entendant encore parler.
Exactement. Écoute, au milieu des années 20, je pense que c'était pas courant les femmes qui pouvaient se permettre ce genre de choses et gagner à la fin. En ouais. plus, gagner gain de cause, quoi. Il l'a plus jamais fait. Voilà. Donc, vive les lanceuses d'assiettes.
Il a plus jamais mangé de soupe.
Il inventa le micro-ondes.
Eh, ça aurait pu mal se finir. Mon grand-père ne serait pas né, ma mère non plus, moi non plus. Enfin, voilà, hein, ça aurait pu... Bon, bref. Roland va récupérer l'assiette que Margaret a lancée et la rend à Margaret en la tutoyant d'un coup. Alors, je suppose qu'il y a une raison, puisque jusque-là, il se vouvoyait. Elle s'énerve, elle chope Roland par le cou et elle lui demande comment elle sait qu'elle vient de chez les Manis. Et moi, à ce moment-là, je me dis que j'ai dû... Oui, comment il sait qu'elle vient de chez les Manis. Et donc, moi, à ce moment-là, je me dis que j'ai dû rater un truc, mais j'ai eu la flemme de relire.
Non, je l'ai noté aussi qu'il doit y avoir une façon dont elle l'a remercié qui l'a fait perdre contenance. Et c'est une ref qui soit est perdue dans les... soit est perdue dans la traduction, soit c'est juste une différence dans les, tu vois, dans la façon de parler dans les dialectes qui doit être horrible à rendre à la traduction et le pauvre traducteur, il a pas su nous faire passer ce message-là.
Je me suis dit que le tutoiement devait être le marqueur. Mm. Mais, ouais, voilà. Donc, il y a pas eu un truc avant que j'ai zappé.
Non, mais ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'elle a changé de personnalité entre avant le lancer et après. Donc, moi, je me suis rabattue sur ça, en fait. Je me suis dit, il l'a reconnu parce que, c'est sa vraie personnalité qui est ressortie après, mais c'est la discussion.
La veille, donc, Margaret a vu Roland parler avec un des Manis. On apprend que c'est son père, à Margaret. Et du coup, elle lui dit de leur dire aux Manis qu'elle est très heureuse dans sa vie et ses choix et qu'elle les emmerde. Enfin, en gros, elle le dit pas comme ça, mais c'est l'idée.
Oui, bah, a priori, ça, c'est pas bien vu qu'une Manie aille se marier avec un extérieur.
Ouais, un non-Manie. Un impie, je crois qu'elle dit. Donc Roland promet de passer le message et tout le monde se calme. Roland se dirige ensuite vers les cow-boys qui ont assisté au lancer et leur dit au KLM que s'ils racontent ce qu'ils ont vu, ils les tuent et les cow-boys comprennent rapidement que ce ne sont pas des menaces en l'air. Roland, Eisenhart et Margaret se retirent pour discuter. Dans la cala, il y a 4 lanceuses de talent. Donc elle, Zalia Jafford, Rosalita et Sari, ou Saré. On n'en a pas entendu parler jusqu'à maintenant,
non.
Il me semble.
Non.
Roland se sent un peu rassuré parce que les armes à feu des hommes du coin sont nulles. Donc au moins, il a les 4 lanceuses. Il donne rendez-vous aux 4 femmes pour dans 10 jours, mais Margaret précise que si son mari est toujours contre l'action contre les loups, elle restera elle-même en retrait. Et Roland, il sait que ça sert à rien de discuter et qu'elle est sincère quand elle dit ça. Il concentre donc Roland ensuite la discussion sur Andy le robot. Il paraît que ce sont les grands anciens qui l'ont programmé. Mais comment aurait-il pu programmer cette alerte, donc où tous les 25 ans il dit attention les loups arrivent, plus de 2000 ans avant la première attaque, puisque les grands anciens ont disparu.
Alors,
il y a environ 2000 ans.
C'est autant l'alerte que le fait qu'il n'ait pas le droit de parler des loups avant, enfin plus précisément que ça, de dire autre chose que les loups arrivent.
Et donc voilà, pourquoi il aurait eu le droit uniquement de prévenir de l'arrivée des loups, mais pas de parler du reste. Et Et là, dans ce passage, donc Margaret et son mari, tout d'un coup, prennent conscience du truc, se rendent compte que, ouais, effectivement, c'est pas logique. En gros, ils ont écrit l'histoire autour de ça et ils l'avaient jamais questionné. Focus maintenant sur la carte. Le plan sera d'envoyer les loups dans une mine pas loin de là. Mais pour ça, il faut y cacher les enfants puisque les loups vont là où il y a les enfants. Ce coin sera idéal pour tendre une embuscade. Sauf qu'en fait, lui, il ne compte pas amener les enfants là-bas. Mais ça, il le garde pour lui parce qu'il sent bien qu'il y a une taupe dans la cala, mais il ne sait pas qui. Et il se rend compte qu'au vu de la situation, en plus, il ne peut pas se fier à ses potes.
En fait, ouais, il se dit qu'il va devoir mentir à tout le monde pour garder son plan secret et que même pas aux autres, qu'il risquerait même pas à la moindre erreur de lâcher le plan. Ils peuvent pas. Il va être encore une fois obligé de garder des secrets pour tout le monde. Chapitre 6. Le conte du grand-père.
Nous voilà maintenant avec Eddie et Susanna chez les Jafford. Après une journée à papoter, jouer et faire connaissance, voilà le vieux prêt à raconter. Alors pas le vieux Callahan, hein, le grand-père de Tia d'ailleurs. Il est prêt à raconter son histoire de loup. Ils étaient quatre copains, dont Molly Larousse, superbe lanceuse d'assiettes. C'est elle qui a tué le loup avec un de ses plats. Mais le grand-père veut reprendre son histoire depuis le début. Ils étaient donc quatre, prêts à attaquer un groupe de quatre loups, lorsque les loups sont arrivés sur eux, et ce fut un carnage. L'un des cavaliers fut touché en pleine poitrine, mais il devait sûrement porter une armure, et le projectile rebondit. Molly arriva à en tuer un, juste avec une de ses assiettes, avant de se faire couper le bras par un lumitrique, qui mit le feu à ses vêtements, et donc à elle par la suite. Son mari, lui, avait été tué quelques secondes avant, puisqu'elle a la cervelle de son mari sur le visage au moment où elle tire son assiette. Au moment où les loups firent demi-tour pour charger les deux attaquants restants, des gamins de 19 ans à peu près, c'est le BFF du grand-père qui se fit exploser, littéralement.
Avec des espèces de drones, c'est une petite description de sa tête qui explose, sa mâchoire qui lui rentre dans la... Enfin...
Non, ça dit que... par son col, ses bras et sa braguette, il y a du sang qui coule. Enfin, en gros, vraiment, il explose. Et l'autre se prend un ragoût d'intestin qui, quelques secondes avant, était encore son meilleur ami, un truc comme ça, dans le visage. Donc, voilà, quand les loups partirent, enfin, il ne restait que Jamie, le grand-père. Il se dirigea vers le loup qui était mort, puisqu'il y en a un qui a été touché par la rousse. Et le bourra de coups de pied de rage. Puis, il se pencha sur le masque, l'arracha, et découvrit... Eh ben, on le saura au prochain épisode.
surtout, on sait qu'il y aura 19 mots prononcés pour révéler le secret, et nous, on sait toujours pas. Et
Plus deux, je veux dire.
Ouais. Je t'ai trouvé plutôt soft en plus parce que dans tout ce passage qui est raconté par le grand-père, il parle comme un vieux pécorde, mais vraiment du
fond.
Dans la Bretagne centrale, en pleine terre.
Bah, tu l'as trouvé soft à l'oral. Elle s'est plaint à l'écrit,
bien sûr.
Longtemps sur le Discord.
Mais non, c'est vrai que le passage en fait... était quand même un peu rude.
Je me doutais qu'il allait y avoir des infos importantes dans cette histoire, a priori, qu'il y aurait quand même quelques pages. Et toute la première partie, c'est le vieux qui parle à Eddie. Et donc, il parle avec ses dents en moins, sa sénilité et son accent. Donc, c'est écrit comme il parle, avec des L à la place des R, avec des lettres manquantes. Et je me suis dit, mais si tout le...
Ah, t'es bien qu'il loule les R, là.
Tout le truc est comme ça, ça va être insupportable. Et après, ça passe à la troisième personne. Et le lecteur, dans la version audio, par contre... Il est fabuleux dans ce passage. Il rajoute un accent qui est pas à l'écrit et qui est vraiment mais parfait. Il est parfait.
Je sais pas comment c'est en VO à l'écrit, mais en tout cas j'ai pas eu l'impression j'ai pas eu de mal à comprendre alors que quand en général ils parlent les Américains du fin fond de la Cambrousse, j'ai du mal. Mais là il a juste pris un petit accent très fort du sud et. Et c'était assez sympa du coup parce que ça faisait vraiment le vieux américain du fin fond des troupes paumées.
Pour le coup, en audio, même s'il avait fait toute l'histoire avec son accent, je l'aurais compris sans problème. C'est à la lecture où c'était insupportable. Enfin, au moins vraiment ça m'a. Enfin, le peu que ça a duré, Le peu que ça a duré, du coup, c'était nickel, parce que comme ça, ça met bien dans l'ambiance. Mais pour l'histoire, vraiment l'histoire, on l'a comme il faut. Mais pour le... Enfin, si ça avait été toute l'histoire comme ça, c'était pas...
Non, c'était...
D'ailleurs, j'ai... Ah oui, ben oui, bon, voilà.
Ouais, c'était pas possible, quoi.
Bien, bien, bien. Nous voilà donc sur un suspense de foufou, un peu.
Ouais, un beau cliffhanger.
Qui n'est pas encore allé au-delà ?
Moi, je suis pas encore allé. Je me souviens vraiment plus trop de ce qui se passe après, donc j'ai hâte de reprendre la lecture.
Moi, j'avais dit que je voulais plus en entendre parler, puis hier, je suis allé courir, je devais courir une heure absolument, et du coup, je me suis mis ça pendant une heure. Eh ben, j'étais pas déçu, hein.
Non, non, moi, je me suis arrêté pile poil au chapitre.
Ah non, moi, j'ai continué.
Pareil, j'ai continué.
Vous avez pas de volonté.
Non, c'est juste que je lis longtemps justement. Et qu'il faut avoir tout lu pour le mois prochain, donc j'ai continué.
Non, puis en plus, on sait toujours pas ce qu'il a vu le grand-père.
Mais spoil pas !
Non, mais là où je suis, rien, j'ai pas dit que j'ai fini.
Mais non, mais j'espère bien que t'as pas fini, mais le dis pas !
Bah, c'est une des raisons pour laquelle j'ai continué de lire.
Et t'as toujours pas ta réponse.
Exactement.
T'es triste.
Ouais. Je peux déjà vous annoncer que je vais commencer le prochain épisode en râlant.
Oh, quelle surprise !
Parce que pendant une heure, il se passe un truc qui est vu par une autre personne qui va re-raconter le truc, qui est vu par une autre personne qui va re-raconter le truc.
Allez, avançons. Bref. Jingle.
Avançons.
Allez.
Et alors, pour en garder un peu pour la prochaine fois, on va passer directement à la théorie de Urd. Les autres bosseront plus tard.
Alors, bah, allons-y, je m'y attendais pas. Oui, non, mais oui. Là, le ni oui ni non, je suis foutue. Alors, comme nous sommes en plein milieu d'un bouquin, nous hésitions à faire une théorie. Comment faire pour rendre hommage à un bouquin en n'ayant lu que la moitié ? Vous me direz que les autres fois, on s'est débrouillé, mais notre quatette a eu une excellente idée. Un épisode hors série, si fait. Charlot, le TGV, navigue entre les mondes des théories et décide d'inviter ses plus fidèles amis, les chats ninjas et les hamsters pirates. Il part dans le monde de poids lourd et lâche à Tony Truant. Yo, les chats ninjas, amenez-vous rue du Vadage de Pique, ça va être la fiesta, y aura masque à terre magique. Il passe ensuite dans le monde des enfants du maïs et leur promet le grain d'or. Je vous passe mes talents de rap pour cette fois-ci. Et nous voici, par les miracles du Vadash, sur une belle plage avec parasol et boissons fraîches. Les hamsters pirates barbotent dans l'eau avec leurs petites bouées roses et les chats ninjas préfèrent jouer du ballon sur le sable. Se salir dans l'eau, très peu pour eux. Charlot, le TGV, arrive en trombe et leur annonce. Bienvenue, mes chers amis. Voici Cater et grains de maïs d'or. Nous ferons la fête jusqu'à minuit ou lorsque tout le monde dort. Ou jusqu'à ce que tout le monde dort, yo. Il met en marche un énorme ghetto blaster qui envoie du son à casser les pattes. Mais qu'importe. Les hamsters pirates sont trop loin et les chats ninjas mettent des boules caisses alors qu'ils ont percé une dizaine de ballons de plage avec leurs griffes. Mais soudain, le son s'arrête. Tout le monde tourne la tête. Un hamster oracle se tient sur le magnétophone de la mort et fait signe à ses compatriotes d'entrer sur la plage. C'est quoi le rapport avec l'univers de Stivou ou même un épisode spécial plage ? Tenez-vous prêts pour la vraie fête, celle qui réunit tout ce vaste univers. Les hamsters oracles se dispersent et le temps de dire ouf, tous les autres animaux ont reçu leur dû et un fou rire s'installe. Chacun avait l'accessoire indispensable d'une fête réussie. Une culotte blanche sur la tête. Ainsi, la fête continua jusqu'au coucher du soleil, de l'apparition des étoiles, de cathares magiques et de maïs doré. Le clou du spectacle étant lorsque Roland arriva avec un string éléphant sur la tête, demandant où étaient passés Eddie et Susanna. Au lever du soleil, chacun reprit le chemin du Vadash inverse pour retourner à ses pénates. Le monde de la plage disparut, et Roland se réveilla avec une migraine d'enfer et une perte de mémoire de la nuit écoulée. Il salua les autres membres du quatet et prit un café double, si fait. C'est terminé.
C'était une bonne comment dire, une bonne tour pas sombre.
Non, et puis pour une fois, tu n'as pas réécrit l'histoire.
Une tour claire.
une tour très 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 colorée même de tout ce que tu nous as déjà proposé en.
C'est un hors série, hein. Donc, je précise quand même que j'ai dû relire toutes mes anciennes théories juste pour ça, pour avoir un minimum de cohérence.
Un très beau mix.
Et dans les ténèbres, les lier.
Oui. Bah, du coup, je vous propose de passer directement à la question des auditeurs. Aux questions des auditeurs.
Question des auditeurs. Merci pour les gentils mots à Pierre Ferré sur Facebook, à Pascal Sebboud, Kouraï21 et ADCTR1 sur Podcast Addict, et à Akasanva, Capital1503 et Aurel A sur iTunes. Il y en a d'autres, mais ceux-là sont les derniers. Voilà.
Moi, je voudrais dire pas merci à Karna, parce que ben, j'aime pas trop les gens qui râlent, parce qu'ils n'aiment pas que je râle sur les gens qui râlent. Voilà. Mais bisous quand même, Karna.
Et il aime pas mes théories, enfin pas toutes. Parce que certaines ça va, mais d'autres pas.
Pas celles qui refont l'histoire.
Ouais, je comprends
mais
un petit peu.
Mais bisous quand même, mes bisous quand même.
Oui.
Alors, on vous le rappelle, mais si vous voulez qu'on pose vos questions en premier, il faut aller les poster sur le Discord de Podcut.
Oh.
Dont le lien sera dans la description de cet épisode.
Et voilà. Dans les bios de nos réseaux sociaux.
Oui, ils sont partout. Juju Pink nous pose. Chouette, emoji hibou. Je fais appel à ma mémoire, mais je pense que vous n'avez pas encore eu la question. Si vous deviez faire appel à 3 personnes pour une quête, avec qui partiriez-vous ? De ce monde ou plus de ce monde, fictive ou réelle ? L'équipe du roi n'est pas une réponse. Smiley, bisous. Je sais une seule question, mais dans l'idée, pourquoi ces personnes particulièrement ? Bisous de chat ninja et merci pour ce nouvel épisode. Prenez soin de vous.
Bah, 3 Avengers. Non, un Sherlock Holmes pour parce qu'il est malin. Et puis, et 2 Avengers les plus forts, Thor et Captain America. Et voilà.
C'est Marvel, non, par la maman. Voilà.
Total Marvel.
Mais oui, mais.
Moi, je partirais avec
Bruce Wayne, il sert à rien, quoi.
Indiana Jones et puis.
Ah ouais, Indiana Jones.
Et puis X.
Ah, mais Superman.
X.
Ouais,
un moment collant, ça va.
Il est pas marrant.
Superman.
Thor Superman.
Ouais. Jean-Claude Van Damme.
Alors, on va pas lancer un débat de geek sur qui est le plus fort, s'il vous plaît.
C'est Chuck Norris. Ouais. Moi je pense Chuck Norris.
Voilà, bien joué.
Bah Chuck Norris, quelqu'un qui sait faire à manger, ça me paraît important.
Et oui. Philippe Echtebest, voilà. Superman, Jean-Claude Van Damme et Philippe Echtebest, je pense que là, ta tête, il va loin.
Moi, je partirai avec mon arrière-grand-mère qui lance des assiettes, avec mon frère et mon chat. Voilà.
Oh. C'est mignon. Oh. Ah oui, il faut un petit animal.
Ouais, et puis comme ça, il ira pisser sur le lit des gens qui nous font chier, et nickel, quoi.
Moi, je pars avec un facehugger. Comme ça, rapidement, j'ai une armée d'aliens, c'est bien.
Bien vu.
Est-ce que tout le monde a répondu ?
Amérique ?
Oui, il a dit Chuck
Norris. Ah oui, c'est vrai.
Il a gagné.
Ouais.
Hein.
Il a gagné, ouais.
J'ai pas besoin de 2 autres, hein. 1 suffit.
question de Cypher. Quelle est pour le moment votre session des aventures de Roland et ou du Quatette complet que vous préférez ? Donc, le tome 1, les aventures du pistolero solitaire, la constitution du Quatette qui est le tome 2 et un peu du 3, les gaillardes aventures citadines dans Lude, le tome 3, le concours de devinettes mortelles, le début du tome 4, les flashbacks en folie, le cœur du tome 5, ou mais que vient faire le magicien d'Oz dans cette galère, la suite du tome 4 ?
Flashback en folie, c'était le cœur du tome 4, pas du tome 5.
Oui.
Je dirais la constitution du quatette.
Pareil.
Ouais, pareil.
Ouais, aussi.
Ouais, le 2.
Non, moi je suis plus 3, j'aime beaucoup
2 et 3.
Quand ils sont dans la forêt et qui tue Chardic dans le 3, tout ce passage est super cool. Mm.
Ouais, mais c'est la tome 2 et un peu du 3.
C'est
un peu
oui, ça, mais c'est vraiment, c'est à la toute fin de la constitution du Quatet, toute cette histoire de porte sur la plage et tout, on passe.
Ok. Nous passons à Twitter. Roi Stephen Pod. Daltonien de l'âme nous pose comme question. Hello Quatet.
C'est des Mingfous.
Hello Quatet du roi Stephen. Comme moi, intuitez-vous que l'auteur essaye de nous prouver que l'homme n'est capable que de jouer avec son gros pistolet et de compter lourdement jusqu'à 19, alors que la femme est réduite, même pour se défendre, à l'utilisation d'accessoires ménagers.
Moi, la fixette sur les flingues, ça me saoule, mais bon, c'est comme ça.
Moi, ça me fait un peu penser à cette espèce de pseudo-van qui dit... alors, je sais même plus comment c'est tourné, mais en gros, que tu renvoies les femmes à la cuisine, mais que c'est là-bas qu'on range les couteaux, tu vois. En gros, faut faire gaffe. Ça, la manière dont il tourne le truc, ça me fait un peu penser à ça.
Ok. Mais du coup, vous le trouvez misogyne, son histoire ?
Non, forcément, parce que c'est plutôt plutôt malin par rapport à la situation des femmes à une époque donnée, de montrer comment elles s'adaptent pour être aussi fortes que, voire même plus fortes que les hommes.
Ouais, c'est
Elles seront clairement plus fortes que les hommes, les lanceuses d'assiettes. Hein.
Ouais, c'est le monde dans lequel elles sont qui est misogyne. Après, au moment où Roland il se rend compte qu'il y a ces capacités-là parmi les femmes. Il se pose pas une seule fois la question de femme ou pas femme, en fait. S'il se rend compte qu'il y a une personne qui est potentiellement un soldat pour l'armée qu'il essaye de monter contre les loups, et ça peut être n'importe qui, il s'en fiche.
Après, effectivement, par contre, l'organisation de la Cala est misogyne. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Je rejoins ce que dit je pomme splaining Emily.
Une fois n'est pas coutume.
Nous avons ensuite une devinette de DJ Paragon. Qui va son cours mais ne marche point, qui a une bouche mais ne dit rien, qui a un lit mais n'y dort point, qui a des bras mais pas de main.
Eh bien, la dernière fois que je l'ai entendu, c'était le père Foura.
C'est Susanna.
Mais non, c'est Susanna.
C'est Blaine qui pose la question, non?
Non, c'est dans la librairie. C'est au moment de la librairie ou c'est dans le bouquin. Soit elle est dans le bouquin, soit on lui pose à la librairie, je sais plus. Je crois qu'elle est dans le bouquin.
Possible. Et le père Foura la sort souvent, celle-là.
Bravo. Oui, oui, c'est un classique.
Voici une clé. Alors, ensuite, on va sur Facebook. Roi Stephen Pod. Bonjour, Johan Musidlac nous dit bonjour et merci pour ce super podcast. C'est bien.
Merci, Johan.
C'est bien.
Commencez toujours par nous flatter un petit peu.
Peut-être qu'on remontera vos questions.
Question. Si vous pouviez changer une fin à un livre nouvelle de Stephen King ou Bachman, sur quoi porterait votre choix?
Mais Jesse, bien évidemment. Sans aucune hésitation.
Ouais, tu taillerais juste un morceau.
Oui, bah du coup, ça change la fin. Toi, tu penses à un truc où carrément tu choisirais une autre direction?
Non, limite, tu vois, je dirais le fléau ou le fait que ce soit une intervention divine, ça me choque, ça me dérange pas plus que ça, ça me choque pas. Que ce soit moins visuel que la main de Dieu littéralement qui arrive pour exploser le truc, quoi.
Ouais, mais tu vois, je suis d'accord avec toi pour
ça
le fléau, mais je ferai comme Jesse, en fait, juste j'enlèverai une partie. Donc c'est pas une vraie modification de fin. Du coup, je sais pas.
Moi j'aurais dit cimetière, parce que j'ai pas aimé que ce soit une fin ouverte. Alors que d'habitude ça me dérange pas, mais que là j'ai envie d'avoir des réponses, quoi. C'est un peu facile.
Je ne change pas les fins, parce que c'est comme ça.
Non, toi tu réécris les histoires complètement.
Moi je... Ouais, si je suis pas contente, voilà.
Ouais, je réfléchis. Je
changerais la fin de rage ou de marche ou crève.
Ah.
Peut-être la fin de rage où j'enlèverais les histoires de épistolaires, là.
Ouais.
Ah, les changes de fin.
L'échange de lettres, ouais.
Je suis un peu team Hurde. Mais vraiment, si on met un pistolet sur la tempe, je crois me souvenir, parce que ça fait maintenant moins qu'on l'a lu, mais la fin de 11 novembre 63, c'était bof, bif bof.
J'essayais de m'en rappeler.
11 63.
Tout ce dont je me souviens, c'est qu'il avait fait une fin, que son fils lui a dit non, c'est de la merde, tu réécris la fin. Il a réécrit la fin et c'est pas non plus. Voilà.
Eh ben, lisez la fin d'origine et vous allez beaucoup plus apprécier la fin qui a été publiée.
Ok.
La fin d'origine, elle est quelque part en ligne sur le site de King. Elle se retrouve en une recherche Google. C'est en anglais, quoi.
Hey, dites-nous, vous aussi, ce que, si vous pouviez changer. Non, parce que vous allez nous spoiler. Non, ne dites rien.
Si, dites-le si c'est un livre qu'on a fait.
Ou alors, dites-nous juste le titre, mais pas le détail.
Instagram. Book of Swirly nous dit Isle à toute l'équipe. Référence, la tour sombre. Je vous le dis quand
oui,
même.
Dans,
oui, le Isle, c'est dans la tour sombre.
Comment tu prononces, Emily?
Aigle. J'ai arrêté de le dire aiglé, voilà.
Ah oui.
Est-ce que vous aussi, vous avez lu toutes les répliques d'Andy avec la voix de C3PO dans la tête? Non.
Non, par contre, visuellement, c'était, pour moi, c'était C3PO.
Ouais,
ouais,
j'ai pas
pour
trop
moi.
La voix de C3PO, mais...
Ah non, moi, c'était Blender. Ça ressemblait pas.
Blender. Moi, c'est un aérobot, quoi. Vraiment la même voix que l'aérobot.
Tu le voyais avec son gros cigare arrivé à côté et avec sa bière dans l'autre main.
Non, parce que la voix était la voix du narrateur avec un ton un peu robotique. Mm. Par contre, ouais, je le voyais comme un peu comme la silhouette du géant de fer, mais en plus maigre, en plus mince. Mm.
Du coup, dans le livre audio, c'est un effet ou c'est le narrateur qui prend une voix?
Non, non, c'est le narrateur qui fait une voix. Il y a pas vraiment d'effet. J'ai pas
en
l'impression.
En français, c'est pareil. En français, c'est que le narrateur sur tous les.
Il arrive à faire une voix en étant un peu nasillard, mais pas trop, à avoir une voix qui tire vers le métallique. C'est assez fort.
D'accord.
Je tenais à vous remercier par ailleurs. Si je prends autant de plaisir à suivre les aventures de Roland, c'est en partie grâce à vous. Alors j'aimerais savoir quelle est l'autre partie. Ouais. Alors, si on doit se battre. Parce que ça devrait être que
King.
Grâce à nous.
Peut-être juste King.
Peut-être. Long Days, Pleasant Night. Et bah toi aussi, et le double. On peut
et
faire des blagues
court,
maintenant.
C'est
beaucoup
de plus court en... C'est beaucoup plus court.
Respect, robustesse.
Force et robustesse.
Non, force et honneur. Respect, robustesse.
Force et houblon, voyons.
Encore autre chose.
Sur le Discord de SKF, nous n'avons rien eu. Donc, un mauvais point. Mauvais point pour
comme
SKF.
Une merde.
Non, pour les gens du Discord de SKF.
Non, pour tout le monde. Non, pour tout le monde prend. Faut être solidaire. Et puis voilà.
Eh bien, nous avons fini cet épisode. Est-ce que vous recommanderiez ce livre en première lecture?
Non. C'est sûr que oui. Hein. Là.
Ça va être un bon début, un bon point de départ.
On vous en reparlera dans la deuxième partie, mais les tomes 6 et 7 et 8, du coup, ils parlent aussi de la clé des vents. C'est ça, c'est la clé des vents, le 4,5 vont être... parce que, alors, la personne qui lisait jusqu'à maintenant chez Audible est décédée, et donc, ne pouvait pas enregistrer la suite.
Jacques
et donc,
France.
Ils ont trouvé quelqu'un. Ouais. Voilà, j'avais oublié son nom, Jacques France.
Il avait une pure voix.
Ah, franchement, ouais.
Oui.
Et donc voilà, il est remplacé, et donc ça sort à partir du 8 juillet, Emily, si je dis pas de bêtises, ou je dis une bêtise, ou t'en sais rien
Alors je sais, mais j'ai oublié.
C'est en juillet, je crois que ça se fait en juillet le tome 6, mais du coup,
ouais,
du coup ça va bien s'enchaîner.
Alors le tome 6, il y a une fin, enfin une fin, il a été repoussé plusieurs fois déjà, et des 3 tomes qui restent à être chez Audible, c'est le seul qui est pas indiqué sur leur site. Donc il a été annoncé pour le 8 juillet, mais il se peut qu'il soit un peu décalé, sachant que oui, le 8 juillet, le tome 7, il suit le 19 août, et la clé des vents, ça suit au mois d'octobre.
Du coup, ça va pas trop mal se goupiller avec nous, c'est bien.
Et maintenant, c'est Nicolas Justamont qui remplace Jacques Franz à la lecture.
On verra ce que ça va donner. Bon, eh bien, je vous propose qu'on se quitte là. Est-ce que vous avez des choses à rajouter? La réponse
non,
D, allez écouter la réponse D.
Donnez des sous au Patreon.
Patreon.com/podcut.
Ouais.
Et laissez-nous des commentaires et des étoiles sur les réseaux sociaux. Comme ça, Pomme, elle pourra râler des gens qui râlent dans les commentaires.
Ah, c'est des gens qui râlent parce que je râle.
Tu râles sur
des
gens
qui râlent.
Voilà. C'est une boucle infinie, il faut arrêter.
Râle,
je ne fais jamais ça.
Donc mettez 5 étoiles, s'il vous plaît.
Des bisous à tout le monde.
Oui,
bisous tout le monde.
Bisous tout le monde.
Parce qu'on a parlé de Podcut Studio.
Bye bye.
Faut rappeler, Podcut.studio.
Podcast Studio.
Tout ça, voilà. Voilà, enfin, avec notre cathode.
Cathode.
Désolée, Rémi.
Sur Twitter, Grand Poil, il a tweeté une photo de nous. Il y a une réponse déjà qui dit « Combien de temps Pomme va-t-elle mettre à se plaindre de la
Eh ben, 38 minutes.
Même pas, non, elle l'a dit avant qu'on commence à enregistrer.
Mais oui.
Vous pourrez retrouver sur Twitter, il y a un tweet de moi d'hier qui dit que je me plains de la chaleur depuis avant-hier.
Donc voilà, elle s'est plaint avant que ça commence.
Absolument.
Émilie, juste avant qu'on reprenne, est-ce que vous aussi vous entendez Émilie de manière un peu bizarre ou il n'y a que moi ?
Ok, c'est passé. Non, ouais. C'est passé, c'était temporaire. Ouais.
C'était de façon bizarre, comment ?
Comme si je parlais avec
Ta connexion était. T'as compris, hein, tout ce qu'on a dit. Hein. Genre ta connexion avait du mal. Mais c'est passé.
Ok.
Un peu comme ça, tu vois.
Ah oui, d'accord. Belle imitation.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.